Ok, oui, on s'installe ensemble pour les deux prochaines heures à Boulevard 102.1. Il est 10h ben pile. Merci beaucoup d'être là dans le Point Max. C'est un gros matin d'actualité. Lendemain, le budget. Mais pour être honnête, je trouve que le budget... Ben, je vais vous le dire, là, c'est une journée que j'aime pas beaucoup. Dans l'année, le lendemain de budget, il y a tellement de stock, puis je trouve que le lendemain, rendu à 10h, on a pas mal couvert de trucs. Fait qu'à l'instant, on va aller entendre immédiatement, parce que c'est là que ça se passe, François Legault qui s'adresse aux médias.
Des moyens importants, et ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est d'expliquer qu'on change le mode de rémunération. Contrairement à ce qui est dit par les syndicats, on ne retire pas un sou du budget.
Monsieur le Premier ministre.
Donc, on va continuer de travailler.
Les médecins ne veulent pas vous l'entendre. Est-ce que vous allez prendre un rôle plus important, une place plus importante pour expliquer votre réforme,
député?
Monsieur Dubé, les gens ne veulent plus l'écouter.
Donc, François Legault qui répondait à certaines questions avant de se diriger justement vers la période des questions du côté de l'Assemblée nationale. Puis je le dis bien, là, je pense, répondait à certaines questions. Vous avez entendu vers la fin le journaliste qui essayait bien d'interpeller François Legault. Puis pour faire l'image, là, il était droit devant. Puis François Legault, ben, regardait lui droit devant et n'avait aucune intention de s'arrêter puis de répondre à ces questions-là. C'est particulier ce qui se passe présentement du côté de la coalition Avenir Québec, toute la situation d'hier avec Isabelle Poulet. Pour vous rappeler, là, hier, dans le Point de Max, on en était au point où elle avait callé une conférence de presse à 9h30 pour faire le point sur son avenir vers 8h30. Et rendue à 9h30, ben Isabelle Poulet a annulé cette conférence de presse-là parce qu'elle a accepté de rencontrer François Legault qui devait vouloir lui dire « Isabelle, pars pas, reste avec nous ». Mais entre-temps, entre le matin puis la rencontre, c'est Pablo Rodriguez, le chef du Parti libéral du Québec, qui est sorti en disant « Ouais, ben Isabelle Poulet, c'est parce qu'elle a essayé de sauter à la clôture puis a essayé de se joindre au Parti libéral puis il y a eu des discussions puis... » Et là, à ce moment-là, ben, Isabelle Poulet est passée de démissionner de son poste à la CAQ à se faire mettre dehors de la CAQ parce qu'elle a essayé de rejoindre les libéraux. Fait que c'est comme tout le monde paraît un peu mal dans cette histoire-là. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini, évidemment, d'entendre parler de députés de la CAQ qui veulent aller jouer ailleurs. Et d'ailleurs, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, qui a laissé entendre que il y a d'autres élus de la CAQ au pluriel qui songeaient à quitter la coalition Avenir Québec, puis qui avaient peut-être même parlé au Parti québécois.
Mais on a appris qu'elle avait parlé aux libéraux. Finalement, elle se fait expulser. On ne l'aura jamais entendu. Je ne suis pas très surpris. Il y a des députés caquistes qui ont approché le Parti québécois dans les derniers mois. Un certain nombre.
Ouais. Mais nombreux.
Une pluralité. Ouais, vous voulez que je les nomme. Mais la différence, c'est que moi, si quelqu'un me dit que c'est un échange confidentiel, j'ai l'intégrité de garder ça confidentiel. Tu sais, il y a des choses qui se font, puis il y a des choses qui ne se font pas. J'avais dit d'avance, puis j'ai le mérite d'avoir été clair, qu'il n'y aurait pas de transfert caquiste. Donc, malgré ces approches-là, notre réponse est toujours la même. On sait aussi, mais vous savez, je pense, si vous faites votre travail de terrain, que Mme Poulet n'est pas la seule parmi les caquistes à avoir des discussions avec les libéraux. Et donc, moi, je laisse ça aux libéraux puis aux caquistes, ces histoires-là.
Et Mme Isabelle Poulet, députée de La Porte à l'Assemblée nationale, est sortie ce matin sur les réseaux sociaux en montrant le texte de la déclaration qu'elle voulait livrer hier matin, une déclaration que finalement a pas livrée parce que, comme je vous le disais, elle a annulé sa conférence de presse et a accepté de rencontrer François Legault puis s'amener à la situation qu'on connaît, qu'elle s'est faite mettre dehors à la place de se mettre dehors tout seul. Et ce qu'elle mentionne dans sa déclaration, c'est qu'elle ne reconnaît plus le parti pour lequel elle s'est présentée et engagée il y a 3 ans. Que les valeurs et les priorités politiques du parti ne correspondent plus à ses convictions ni à l'engagement qu'elle a pris envers les citoyens de sa circonscription. Le projet de loi 2, dit-elle, est venu cristalliser cette déception-là que depuis quelques mois, elle s'est souvent demandé si elle était à la bonne place, mais que c'est une personne résiliente. Elle est en accord, dit-elle, avec le principe du projet de loi 2, améliorer l'accès à la première ligne pour les Québécoises et les Québécois, mais d'y avoir été profondément déçue par la manière dont le projet de loi a été présenté et géré. Elle dit qu'on a reçu un document de 113 pages, qu'on devait défendre et voter sans explication détaillée ni réponse claire dans les heures qui ont suivi le dépôt. À titre de parlementaire, je considère que ça manque de professionnalisme, écrit Isabelle Poulet. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef péquiste, a été questionné ce matin sur le fait que Mme Poulet l'a défendu beaucoup, ce projet de loi 2, alors que ce matin, elle sort en disant qu'elle n'était pas en accord.
Elle l'a défendu, hein, c'est ça. J'ai revu les extraits vidéo, puis elle l'a défendu pas à peu près. Donc ça, je la laisse à elle. Peut-être que ce serait un bon exercice pour elle de venir devant vous puis de vous expliquer son point de vue là-dessus. C'était ce qu'elle était censée faire ça hier.
Ça sent du crédit, ce qu'elle dit, compte tenu qu'on apprend qu'elle magasinait avec les libéraux, là.
Comme disait Bernard Landry, Audi alteram partem. Qu'elle vienne s'expliquer, puis qu'elle parle devant nous, puis on comprendra peut-être plus ses motifs. Mais à sa décharge hier, elle voulait s'exprimer. Je pense qu'elle a été peut-être un peu trop de bonne foi en acceptant une rencontre en après-midi, puis en assumant que lorsqu'on dit que c'est confidentiel, les gens ont tous les principes pour certaines choses demeurent confidentielles. Elle se retrouve dans la position...
Si après coup, après Bâillon, il y a des caquistes qui se rendaient compte de l'impact de leur projet de loi, un peu particulier, il n'aurait pas été mis dispensaire avant?
Je pense que c'est plus qu'on est devant une perte de confiance dans la manière dont Christian Dubé a mis en place les étapes précipitées.
Donc, on va continuer de suivre ce qui se passe, autant avec Mme Poulet qu'avec la coalition Avenir Québec, tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale et d'ailleurs les députés qui sont en train de prendre place là, du côté de l'Assemblée nationale pour une période des questions qui aura lieu ce matin. On ira faire des petits tours de temps en temps si ça vous dit. Question de voir si ça brasse à l'Assemblée nationale. Gros show aujourd'hui. Dans quelques minutes, on va recevoir Misha Horswill, qui est candidate défaite de Transition Québec dans Cap au Diamant. Misha Horswill, qui a été une candidate très, très, très visible au courant de la campagne électorale municipale, beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis ce qui ressort beaucoup, c'est une campagne très positive qui a été menée par Misha Horswill. Puis ça fait du bien des fois d'avoir de ça, d'avoir des idées. Puis chapeau en passant à Transition Québec en général pour ça. Oui, c'est un parti qui est peut-être plus marginal. On n'a pas réussi à faire élire de conseiller. La chef non plus, le Jackie Smith, qui n'a pas réussi à se faire élire. Mais c'est un parti qui amène de bonnes idées. Bon, des fois, on le compare un peu au Québec solidaire de la politique municipale avec certaines idées qui peuvent se ressembler plus à gauche. Mais d'avoir de ces partis-là, même si on les veut pas nécessairement au pouvoir, puis là, je parle pas pour moi, je parle pas pour vous, je parle pour certains individus qui veulent pas de ces partis-là au pouvoir, ben je trouve ça important d'avoir des partis comme ça qui peuvent arriver des fois avec des super bonnes idées, peut-être plus de gauche, peu importe, puis qu'on peut prendre ces idées-là puis aller de l'avant. Fait que bref, salutations aux gens de Transition Québec et Misha Horswill qui sera avec nous dans les prochaines minutes aussi. C'est mercredi, tous les mercredis, on jase avec l'ami Nathan Meilleur, animateur du côté de Weekend. On y a souvent avec Nathan qu'il aime ça, prendre parole sur des enjeux des fois plus sérieux, plus politiques. Puis à Weekend, ben, il y a moins de place pour ça. Fait qu'il vient le faire dans le Point de Max à Boulevard. Puis aujourd'hui, on va jaser un peu de ce qu'on parlait dans les dernières minutes, là. L'histoire de Mme Poulet du côté de l'Assemblée nationale qui veut quitter la CAQ, puis là, finalement, elle accepte la rencontre. Puis là, on apprend qu'elle a essayé de sauter à la clôture pour rejoindre les libéraux. Là, elle se fait mettre dehors. Il y a du côté d'Ottawa aussi, où il y a une histoire, un candidat du Parti conservateur du Canada qui est passé dans les dernières heures au Parti libéral du Canada. C'est le député d'Acadie-Annapolis, Chris D'Entremont, qui a quitté les conservateurs pour immédiatement rejoindre les libéraux, alors que, bon, on peut dire que, oui, Mark Carney a repris beaucoup d'idées des conservateurs dans les derniers mois, Mais reste que il y a quand même encore un petit monde de différence entre les partis. Et là, d'avoir été élu il y a quelques semaines à peine, quelques mois, du côté des conservateurs, là, whoop, saute la clôture le soir d'un premier budget Mark Carney qui ne sera pas appuyé par les conservateurs. C'est assez particulier. Fait qu'on va parler de ça. En politique, l'honnêteté en politique, l'opportunisme des fois de certains politiciens. Discussion qu'on va avoir avec l'ami Nathan Meilleur. Dans l'actualité, avant de recevoir notre première invitée, fabrication et possession de monnaie contrefaite, la Sûreté du Québec là, qui mène une opération à Québec. En fait, c'est hier que ça s'est fait. Là, on dit opération pour contrer la fabrication et la possession de monnaie contrefaite dans un immeuble à logement de la rue Isidore Garon à Québec. C'est une douzaine de policiers qui participaient à cette enquête-là qui a été initiée à la mi-octobre. L'opération qui visait à récupérer de faux billets, des composantes permettant d'en produire ainsi que des éléments de preuve. Mohamed Hedi Guedry, 24 ans, qui doit comparaître ce matin au Palais de justice de Québec pour faire face à des accusations de possession de monnaie contrefaite et de possession de biens criminellement obtenus dont la valeur dépasse 5 000 $. D'autres arrestations et perquisitions qui pourraient suivre. Il y a des éléments de preuve qui ont été saisis également. On parle d'un véhicule à titre de bien infractionnel et 2 700 $ en faux billets de 20, 50 et 100 $. Les faux billets saisis qui ne posséderaient pas la caractéristique de sécurité du relief au toucher, nous dit-on. Et la partie de l'hologramme était collée sur les faux billets. Il pouvait se détacher en grattant aussi. On indique que les numéros de série des faux billets en circulation ne sont pas uniques. Les billets de 20$ saisis dans cette enquête jusqu'à maintenant portent tous le numéro de série FIT 40-99-38-5. Ceux de 50$ AHU, ben là, je les ferai pas toutes, là, mais bon, vous comprendrez le principe que il y a des façons de reconnaître ces faux billets-là. L'autre nouvelle qu'on va passer avant de recevoir notre invité qui est arrivé en studio dans les derniers instants, le SPVQ qui a procédé hier soir à l'arrestation d'un suspect de 33 ans pour une agression armée dans le secteur de la Haute-Saint-Charles. Ce serait un homme qui s'en serait pris à sa mère. Vers 21h40, un appel qui a été logé au 911 concernant une dame blessée par arme blanche sur la rue Régent. Rapidement, les policiers du SPVQ qui sont rendus sur place ont localisé la victime à l'intérieur. Elle était mais présentait des blessures sérieuses qui, heureusement, ne mettaient pas sa vie en danger. Des premiers soins lui ont été prodigués. La femme âgée de 64 ans qui a été transportée vers un centre hospitalier. Le suspect qui a été arrêté à l'intérieur du domicile restait détenu et devait être rencontré par les enquêteurs. Il s'agirait, comme je vous disais, d'un événement intrafamilial, un fils et sa mère. Dans les prochaines secondes, on est encore dans la foulée des élections municipales qui se sont tenues dimanche. Ça a bien été pour certains, voire ici l'équipe du maire Marchand qui a pas mal tout raflé. Il y a une opposition officielle composée de 3 membres de Respect Citoyen. Puis il y a d'autres partis qui ont été pas mal rayés de la carte, ou en fait rayés de la carte carrément. Et parmi ces partis-là, il y a Transition Québec, même la chef Jackie Smith qui n'a pas été en mesure d'obtenir une place. Et on en parle dans les prochaines secondes avec la candidate défaite dans Cap-au-Diamant, Misha Horswill.
L'application Boulevard 102.1. Le couteau suisse de ton téléphone.
Max. C'est bon. 10h14 minutes dans le point de Max à Boulevard 102.1. Je vous le disais, les élections municipales qui viennent tout juste de se conclure, on en parle encore parce que c'est pas tous les partis nécessairement qui sont sortis depuis l'élection de dimanche. Puis tu sais, je peux penser entre autres à Leadership Québec, le parti Sam Hamad qui se fait très, très, très tranquille. En fait, il y a certains candidats qui sont sortis sur les réseaux sociaux. On n'a pas vu beaucoup dans les médias. Puis pour ce qui est du chef Sam Hamad, de ce qu'on comprend, ça va attendre encore une couple de jours. Là, on peut comprendre avec la débandade totale dans son cas. Et bon, ce matin, je reçois Misha Horswill, qui est candidate défaite de Transition Québec dans Cap-au-Diamant. Misha, bonjour.
Salut, Max.
Le nom de famille, je l'étudie comme faux. Je sais que tu te le fais demander souvent, puis là, j'essaye d'écouter. Puis Misha Horswill, ou il faut dire Horswill?
Écoute, même dans ma famille, il y a débat là-dessus. Mon père, qui est anglophone, dit Horswill. Ma mère, Horswill, qui est québécoise, dit Horswill. Donc, j'ai toujours navigué au travers des deux.
Il y a moyen de jouer avec les deux.
Ouais, des fois, j'essaie, quand les gens me demandent comment je m'appelle, je fais juste répondre Misha. Je me dis que c'est plus simple comme ça.
OK, OK. Pas choix de parler de la dure soirée de dimanche pour Transition Québec. Pas d'élu, même pas Jackie Smith. Puis tu sais, on se voit pas de cachette. On s'attendait pas à ce que Transition Québec rentre majoritaire à mairie. Là. Mais on disait, bon, peut-être faire élire quelques candidats. Mais là, que même Jackie Smith soit pas entré, qu'on soit complètement rayé de la carte, est-ce que ça a été une surprise de votre côté?
Quand même, oui. Quand, personnellement, j'ai pris la décision de me présenter, je me faisais pas d'illusions non plus. Là. J'essayais de rester très réaliste. Je sais comment ça se passe en général à Québec. Quand il y a un maire qui est élu avec son parti, ils sont systématiquement réélus. C'est ça la dynamique à Québec. Donc, je savais que moi-même, en me présentant contre une candidate qui était déjà élue, qui avait un bilan à défendre, que ce serait difficile. Que la gratte passe comme ça, t'sais, on avait quand même espoir de faire des gains au centre-ville. Donc oui, c'est sûr que ça a été un coup dur, mais en même temps, de mon point de vue, je savais que ça viendrait.
Dans le cas particulier de Jackie Smith, est-ce que tu as eu l'occasion de lui parler un peu dans les derniers jours? J'imagine que c'est pas facile pour elle.
Oui, ben là, elle prend beaucoup de repos, mais là, on s'est croisés justement à Radio-Canada pendant que je m'en venais ici. Elle était en entrevue, puis bien évidemment, on lui posait la question, est-ce que vous allez demeurer chef? Est-ce que vous allez revenir? Je crois pas qu'elle a pris de décision encore pour l'instant, puis il y a un repos bien mérité qui va venir. Mais elle a quand même fini l'entrevue en disant, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire à la prochaine fois.
Bon.
Donc, c'est ça, clairement, puis je vous entendais le dire juste avant de rentrer en studio, là, on est un parti d'idées, on est un parti de cœur. Donc, malgré la défaite, j'ai pas senti qu'il y a personne au sein du parti qui s'est dit, c'est fini, on met tout dans les cartons. Non. On sent encore, rien n'est fini pour nous.
De ton côté, Micha, tu as terminé deuxième dans Cap au Diamant. Mélissa Coulombe-Leduc de Québec Fort et Fier qui est quand même sorti avec un excellent résultat.
Oui.
Est-ce que tu es quand même fier de la campagne que tu as menée, du résultat au final de terminer deuxième pour un parti comme Transition Québec? C'est pas de l'acquis non plus, là?
Oui, je suis très fière de la campagne qu'on a menée. Une campagne positive, une campagne d'idées. Il y a des bonnes idées là-dedans qui, je pense, qui peuvent tout de même aller de l'avant, même si je ne suis pas élue, que je peux mener à titre de simple citoyenne. Je savais réalistement que je risquais pas de gagner. Je suis somme toute un peu déçue. Je m'attendais à un score plus élevé, mais n'en demeure pas moins qu'on a fait des gains. Il y a plus de gens qui ont voté Transition Québec dans mon district, donc pour moi, en chiffre absolu, relatif et absolu. Puis aussi dans 12 districts, reste qu'on a fait des gains. Il y a plus de gens qui ont voté Transition Québec, donc tout n'est, c'est pas seulement qu'un bilan négatif.
Dans les circonstances, de voir Bruno Marchand obtenir un mandat très fort face à une opposition qui sera plus faible, est-ce que vous êtes, puis quand je dis vous, je parle peut-être du parti, mais là, je te parle à toi, du fait que on s'entend, l'équipe du maire Marchand peut ressembler pas mal plus à vos idées chez Transition Québec ou à tes idées que du côté de Respect citoyen. Ça, c'est-tu une certaine victoire au niveau des idées? Ne serait-ce que pour le tramway, par exemple.
D'un point de vue tramway, 100%.
Pour
c'est
le
clair
reste,
que sur un spectre linéaire, j'imagine qu'en effet, Québec Fort et Fier se retrouve plus proche de nous. Mais après, c'est certain que d'avoir un conseil municipal qui est aussi uniforme, c'est-à-dire avec autant d'élus du même parti, c'est pas quelque chose qui est sain pour la démocratie en général. Malgré le fait qu'on peut concéder que Québec Fort et Fier est plus proche de nous que, mettons, Leadership Québec ou Respect Citoyen, n'en demeure pas moins que je crois que la présence de Transition Québec va se faire manquer sur certains... va manquer sur certains enjeux, notamment l'itinérance. C'est quelque chose qui m'a marqué moi, dans cette campagne-là. Notre bureau électoral était dans l'ancien Benjo. Puis, tu sais, j'étais au courant des enjeux d'itinérance dans Saint-Roch. Saint-Roch, c'est un quartier que je fréquente. Je connais des gens qui travaillent dans Saint-Roch aussi. On m'en avait parlé beaucoup. Mais de le vivre au quotidien comme ça, là, de descendre, de passer à tous les jours au passer au travers de l'îlot Fleury, de voir les employés de la ville qui sont, eux, censés nettoyer les rues, mais qui, à la place, passent, défendent les campements, ramassent les biens des personnes en situation d'itinérance à tous les jours, de voir le parvis de l'église avec des interventions policières pour défaire les campements à tous les jours, de quand moi j'essaie de rentrer au local, de devoir tasser des gens qui essaient juste de dormir en se collant sur la fenêtre parce qu'il y a de la chaleur qui émane du Benjo. C'est quelque chose qui m'a frappé, des images, une réalité que j'ai vécue, que je ne peux plus jamais enlever. Puis Transition Québec était là pour ça, était là pour demander de décriminaliser. On peut prendre cet enjeu-là de tous les points de vue possibles, d'un point de vue humain d'abord et avant tout. Je pense que personne souhaite nécessairement se retrouver à la rue, puis ces personnes-là doivent être traitées avec dignité. Mais après ça, on peut regarder cet enjeu-là d'un point de vue économique, de la perte de temps, d'un point de vue de sécurité. Je sais que ça donne l'impression que quand il y a des policiers qui interviennent sur des campements, ça peut donner l'impression que, OK, les policiers sont là, ils nous protègent, mais les policiers sont bien plus pertinents à gérer la vraie criminalité que de jour après jour après jour tasser les mêmes... Ça règle absolument rien. Il n'y a pas là la vraie réponse. Puis de ce point, ne serait-ce que... Là, je parle juste d'un enjeu, c'est lui qui m'a marqué le plus dernièrement, mais sur tellement d'autres enjeux, c'est pertinent d'avoir une opposition.
Comment t'expliques le raz-de-marée en faveur de Bruno Marchand le soir de l'élection que à peu près personne n'avait vu venir? Là, il a fini à peu près avec 50% des votes au final, mais quand la soirée a commencé, ça a commencé à 60, puis ça restait dans ces eaux-là, puis là, progressivement, ça a baissé vers 50, mais ce qui est quand même énorme, tu sais, quand on voyait les sondages, jamais on se serait attendu à ce que Bruno Marchand ait cherché 50% des votes pour la mairie, puis qui aille chercher quasiment tous les candidats, à part quelques-uns de Respect citoyen. Comment on se l'explique, ça?
Premièrement, je ne suis pas une pro de la politique municipale. Deuxièmement, il faut dire aussi que dans ma campagne, puis je crois que beaucoup de mes collègues candidats, candidates, ont fait la même chose. Il faut un peu se mettre des œillères puis regarder juste ce qui se passe dans son district. Après, est-ce que... Je suis une scientifique, puis j'ai peut-être tendance à regarder les données, les tendances au fil du temps. Donc, comme je l'ai dit en début d'entrevue, il y a vraiment cette tendance-là à Québec. Là, on peut remonter très, très loin jusqu'au début des années 30, et c'est vraiment systématiquement ce qui se passe. Il y a un nouveau maire qui est élu avec son parti, puis la seconde, quand il vient le temps de la réélection, non seulement ils sont réélus, mais ils sont réélus avec un plus fort appui. Ça a l'air d'être le comportement des gens de Québec. J'aimerais ça, tu sais, évidemment qu'on pourrait parler de... Est-ce que c'est la peur qui a... Parce que, bon, il y a eu beaucoup de scandales dans cette... et de bruit.
Claude Villeneuve a parlé du vote anti-Lachance, que là, le monde a comme pris peur que Stéphane Lachance peut-être pourrait devenir maire, fait qu'on a appuyé davantage Bruno Marchand.
Peut-être, mais peut-être pas non plus. Je sens que ma réponse est plate, mais si c'est systématiquement ce que les gens de Québec font, réélire un coup que quelqu'un qui est en place, c'est comme si on lui faisait confiance, puis on réélit, puis on lui donne le temps, j'imagine, de mener à terme ses projets. Donc, je trouve ça désolant. Le style, bien évidemment, qu'il y a eu, les propos qu'il y a eu dans cette campagne, je pense qu'on s'est tenu loin des vraies idées. Reste qu'après ça, il y a quand même, moi je suis fière du travail qu'on a fait de ce point de vue-là, de quand même lancer ces idées-là, puis ces idées-là continuent d'exister malgré notre défaite. Donc, je trouve ça vraiment dommage qu'on ait passé autant de temps à parler de scandales, de trucs futiles. Est-ce que c'est vraiment ça qui a mené à la défaite? J'en suis pas convaincue, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le disent.
C'est quoi que tu as trouvé le plus tough dans ta campagne? C'est-tu justement ça, d'avoir l'impression qu'on a beau amener des belles idées, ben tout le monde va parler puis entendre parler du scandale avec les deux, que là, l'autre a-tu offert quelque chose à l'autre pour qu'il se retire, puis que là, pendant une semaine, ce soit juste ça le sujet de discussion?
Oui. J'ai senti... C'est sûr que quand tu fais une campagne de district pour devenir conseillère municipale, tu essaies de te concentrer vraiment juste sur ce qui se passe. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, là, dans mes quartiers. Mm-hmm. Puis il y a des mois de travail. Au préalable, là-dessus où on suranalyse un peu tout, on essaie de tirer des idées, puis après ça, t'es fier de tes idées, tu vas les porter. Mm-hmm. Puis souvent, malheureusement, ce qui revient, c'est ce qui se passe à la mairie. Donc, malgré le fait que tous les candidats dans Cap-au-Diamant, on avait des idées, on essayait de mettre de l'avant ces idées-là, reste que ce qu'on nous ramène toujours, c'est comme « Ah, mais avez-vous vu le scandale? Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé à la mairie? » C'est important aussi, bien sûr, mais comme je le disais, moi, j'étais vraiment concentrée sur mon district, donc c'est un peu de voir que malgré le fait que tu essaies d'amener des idées ultra-locales, puis c'est la beauté aussi de la politique municipale, c'est que c'est tellement concret, puis que les changements peuvent arriver rapidement, mais que systématiquement, on te ramène à ce qui se passe au-dessus, puis les enjeux qui étaient là étaient soit non pertinents ou désolants, ou on parlait du même enjeu. Je me retiens pour pas... Je suis à la radio. Micha, t'es à la radio. Dis pas des choses que tu vas regretter. Mais les mêmes maudits enjeux!
Le vote est derrière. Tu peux, on peut dire ce qu'on veut. Là.
Ben, c'est ça. Hey, le tramway, là, j'étais... Oh,
t'étais écœurée de parler du tramway?
Ouais. Hey, moi, je me souviens d'un beau moment. Un moment qui m'a vraiment marqué dans la campagne. Puis c'est là que je pense que j'ai compris la pertinence d'avoir une chef, d'avoir un leader dans un parti. Je me préparais pour un débat mobilité. Je préparais tout mon argumentaire, puis comment est-ce qu'on pourrait m'attaquer sur tel enjeu, puis qui est-ce que je pourrais attaquer sur tel enjeu. Là, je décide d'aller voir des personnes dans mon parti pour dire, OK, voici l'angle que je voudrais prendre, est-ce que c'est correct? Puis là, on m'a dit, ben Michel, oublie pas de nommer quand même que t'es contre le troisième lien, pour le tramway. Puis je dis, oh non, j'ai pas envie de parler de ça. Puis là, Jackie, elle m'a spoté au loin, puis elle m'a fait un gros colleux, puis elle était comme, parle-moi, Michel, qu'est-ce qui va pas? Puis je faisais semblant de pleurer, j'ai plus envie de parler de ça.
Mais c'est...
Puis ça, elle m'a coaché, puis on a pris une ligne ensemble, puis ouais. C'est la beauté quand même d'avoir un chef.
Sens-tu qu'il y en a beaucoup de candidats municipaux, puis je parle pas juste chez Transition Québec, là, en général, dans les différents partis, qui ont été un peu écœurés qu'il faut tout le temps que tout tourne autour du tramway, puis, tu sais, je me souviens, dans les à peu près 72 débats qu'il y a eu entre les candidats pour la mairie, là, il y en a peut-être un où ce qu'il n'y avait pas partout le lendemain, c'était pas en lien avec le tramway, mettons. À part ça, après tous les débats, ben c'était juste les mêmes lignes que d'habitude sur le débat de tramway, mais des fois dans des mots un petit différent, puis là, un petit peu différent. Puis là, whoop, des fois, c'était une nouvelle attaque, une nouvelle ligne qu'on n'avait pas entendue. Fait que là, c'était cool. Mais reste que ça tournait tellement autour de ça. Sens-tu que les candidats en général à l'élection municipale étaient un peu écœurés puis avaient l'impression que tout le reste passait dans le beurre?
Je pense que oui, définitivement. Tu sais, je me faisais inviter à un débat mobilité, puis là, tu t'attends de savoir ça va être quoi. D'habitude, ils te disent un peu à l'avance ça va être quoi les sujets. Là, tu demandes ça va être quoi le sujet, puis on te dit tramway et autres mobilités. Sérieux, pour quelque chose qui est un projet qui va déjà de l'avant. Bref, fait que oui, c'est un peu parce que pendant qu'on parle de ça, on parle pas d'autre chose. Donc, définitivement, un peu déprimant. Mais comme je disais, somme toute, rien n'est perdu. Moi, le travail, c'est... Bon, la campagne est censée être terminée, mais quand tu fais quelque chose d'aussi intensément, c'est dur de mettre ton cerveau à off et dire que, OK, ben on passe à d'autres choses. Donc là, première des choses, je me suis tout de suite retournée vers c'était quoi les promesses électorales qu'on a faites, lesquelles peuvent, somme toute, aller de l'avant sans être une élue. Moi, je pense que de faire une épicerie... On l'avait appelée épicerie municipalisée dans notre plateforme, donc une épicerie abordable, en mode co-op un peu, puis d'allier à tout ça un marché. Je pense que c'est un projet qui peut être mené. Ben, bien évidemment, avoir la ville de son bord, ça aide. Là. Fait que c'est le genre de projet que j'aimerais quand même pousser. Un centre de création numérique, une maison de la création numérique.
Ouais, cette idée-là
c'est
avait...
quelque chose qui peut... qui a généré de l'intérêt. Ouais. Encore une fois, d'avoir la ville comme partenaire, ça peut pas nuire, mais c'est ça. Tout ça n'est définitivement pas en vain.
Tu le referais, la campagne, tu sais, des fois, puis j'ai l'impression que généralement, les gens vont dire oui parce que des fois, on apprend, puis on prend de l'expérience, puis... mais des fois, j'imagine qu'il y en a qui sortent de là, puis qui se disent, ouais, si t'as à refaire, tant qu'à perdre, je le referais pas. Tout a l'air quand même positif.
Ah oui, définitivement. Je l'ai dit à quelques reprises, je vais le redire encore aujourd'hui à la radio. Je l'ai fait avec beaucoup d'enthousiasme, cette campagne-là. J'avais quand même une crainte qu'en tant qu'éternel optimiste, qu'il y a toujours la flamme, que ça, de faire la politique vienne à bout de ma flamme, qu'elle soit éteinte.
C'est triste.
Par le cynisme, mais pas du tout. Au contraire, j'ai été agréablement... Bizarrement, j'ai repris froid en l'humanité.
OK. Mais c'est triste de juste avoir eu cette pensée-là. Tu sais, ça montre la vision qu'on a de la politique. De quelqu'un qui se lance puis qui se dit... Ah, je me lance, mais moi, je suis éternel optimiste, puis j'ai peur que ça m'éteigne. Après ça, on comprend pourquoi il y en a plein qui se lanceront jamais.
Mm-hmm. Ouais, ben je me disais peut-être que les gens, les cyniques, ils ont compris quelque chose que j'ai pas compris, puis que je suis juste une naïve, je suis juste candide. T'sais. Non, je pense pas, non. Les gens sont fondamentalement intéressants et intéressés. J'ai même pris goût au porte-à-porte, étrangement. J'étais sûre que tout le monde, personne ne voudrait me parler, qu'on me fermerait la porte au nez, qu'on serait même méchant. J'ai eu une seule expérience de quelqu'un qui était vraiment négatif, qui n'avait rien de positif à dire, puis qui disait que je perdais mon temps. Sinon, je pense que 95% des gens ouvrent la porte puis prennent le temps de jaser avec nous, même si c'est rapide, même s'ils disent « Hey, j'ai quelque chose sur le feu, mais merci full d'être passé. » J'ai vraiment eu des belles discussions. Les gens, ils veulent que ça aille mieux. Puis il n'y a rien de mieux que des discussions en personne, en face à face. Comme quoi, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours
représentatif. Non, c'est ça, j'allais dire. Tu vois que les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est plus dur à dire en face à la base, là, mais les gens se privent moins sur les réseaux sociaux. Je rappelle qu'on parle à Misha Horsewheel, ou dites-le comme vous voulez, tant que ça ressemble à ça, ça a l'air. Puis il y a des beaux textos qui rentrent au 88-971-1021. Jean-Sébastien qui dit j'adore les TikTok à saveur historique de Misha à découvrir si vous ne connaissez pas. Misha, j'adore ces vidéos qu'il a fait pour parler de Québec. Ça, tu le faisais avant la campagne, puis tu vas continuer, là.
Ah, définitivement. Ben là, j'ai besoin d'une pause de mon téléphone, s'il vous plaît. Donc là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit « Merci, j'apprécie la vague d'amour et de reconnaissance. » Je les prends un à un. Mais oui, je suis pas quelqu'un qui était beaucoup sur mon téléphone à la base. Puis là, j'ai commencé à faire ces capsules-là. Puis là, la politique a embarqué. Puis là, on devient comme tout le temps sur cette petite machine. Donc là, j'ai besoin d'un break, mais définitivement, je vais revenir, puis je peux pas laisser des enquêtes comme ça à moitié résolues. Ma chaîne avait quand même évolué avec la campagne électorale où je me suis mis à intégrer la politique. C'était intéressant de voir, je me disais à quel point est-ce que je suis vraiment capable d'intéresser les gens à la politique municipale. La meilleure manière, c'était vraiment d'allier la politique à l'histoire, d'utiliser l'histoire pour montrer sur un certain enjeu comment ça a évolué. Est-ce que je vais continuer à faire ça à voir? Là, c'est sûr que j'étais déjà quelqu'un de politisé. Je suis rendue à un niveau de politisation extrême. Donc, là, je pense que je vais revenir à quelque chose de plus les curiosités de la Ville de Québec, les petits mystères juste des fun facts sur la ville. Mais je sais pas. C'est un beau terrain de jeu, en fait, les réseaux sociaux. Au début, je pensais que ma chaîne, c'était juste les curiosités de la ville avec beaucoup d'histoires. Puis finalement, je pense que ma chaîne, c'est moi. Puis mes intérêts. J'avais commencé à faire un peu plus de géologie. Mon but, c'était d'amener la géophysique. Tellement peu de gens savent c'est quoi la géophysique. Donc, j'ai toujours cet intérêt-là d'amener un petit peu plus de science, toujours avec quelque chose de très concret. Moi, j'aime ça me rendre sur les lieux, montrer, regarder ce qui se passe à votre coin de rue, c'est ça, puis voici comment on l'explique, soit historiquement ou scientifiquement. Mais je sais pas, tout est possible.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie à part là, t'être présenté aux élections?
Je suis professionnelle de recherche à l'Université Laval en géophysique.
OK.
Il n'y a pas vraiment de programme de géophysique. Il y en a très peu au Canada. Il y en a pas tant à l'Université Laval, mais reste que c'est un domaine de la géologie qui prend de l'ampleur. Mais là, je suis sur une fin de contrat. Donc, tout est ouvert pour moi après Noël.
Les élections provinciales de 2026, ça se peut-tu?
Non.
OK, je me serais attendu à un peut-être. Mais quoi que des fois, en politique, la phrase, c'est « tu dis non tant que tu le fais pas » pour te présenter. Ça a l'air que c'est la règle.
Connaissais pas. Okay. Moi, je suis toute nouvelle en politique. Hein, mais... Non, là, ben, je suis tellement focussée. je suis tellement focussée sur Ben, je vais arrêter de dire district. Là. Mon petit coin de ma ville, là, la haute ville de Québec, surtout. Ça va être... Attention, ça va être ultra cliché, ce que je vais dire là. J'ai tellement rêvé. Je suis tellement d'amour avec. Je me vois pas faire autre chose. Fait que là, je suis peut-être juste entêtée aussi, mais là, j'ai vraiment envie de mettre de l'avant bon, ben, les deux projets dont je parlais plus tôt. Peut-être que dans une semaine, je vais revenir les deux pieds sur terre et j'aurai un autre discours, mais ouais, voilà.
En attendant, Michel, la porte qui est toujours ouverte, si tu veux venir jaser de tes projets ou venir nous faire des petits cours d'histoire, là, n'importe quand, ça peut être le fun. Les gens qui aiment te suivre sur les réseaux sociaux, fait que d'après moi, ils vont être bien contents de
t'entendre. Merci de la proposition. Une chose qu'il faut rappeler, là, on vient de le dire, mais je ne suis pas historienne, OK? Donc, il faut faire très attention. C'est sûr que j'aime ça parler de ma passion, mais je ne suis pas une référence en histoire.
Bon, OK. Michel Hurstwil, merci beaucoup pour ton temps, candidate défaite de Transition Québec dans le Cap au Diamant, mais toujours bien optimiste.
Oui!
Au retour de la pause, Nathan Meilleur qui vient faire son tour. C'est mercredi, fait que la petite tradition qu'on instaure. On va jaser le côté peut-être un peu moins beau de la politique, les opportunistes, parce qu'on a eu des bons exemples dans les dernières heures. Belle discussion qui s'en vient avec Nate Meilleur. Le Point Max. 10h42 minutes dans le Point de Max à Boulevard. 4 degrés à Québec. On attend 5 avec de la pluie. Pour l'instant, c'est nuageux, mais il n'y a pas de pluie en vue. Demain, jeudi, 3 degrés, généralement nuageux. Vendredi, 0 degrés, neige intermittente. Puis là, samedi, ça re-switcha de la pluie. Puis ça, c'est pas cool parce qu'il y a un match du Rouge et Or, la finale face au Carabin. Ça serait le fun qu'il mouille pas. Fait que ma demande est passée. Si jamais quelqu'un peut entendre et rechanger les prévisions météo, ce serait bien smart. Nathan Meilleur vient de faire son entrée en studio. S'il y a quoi que ce soit, 418-971-1021 par texto. Nate, bonjour.
Bon matin.
Ça va?
Ça va très bien, toi?
Yes. As-tu entendu un bout de mon entrevue avec Micha?
Oui.
C'est tellement du monde qu'on veut en politique, ça.
Moi, ça me motive, ça, énormément, à continuer à m'intéresser davantage à la politique. À un point tel que de voir des femmes comme elle qui deviennent aussi rapidement des modèles, selon moi, ça donne envie de pas juste suivre la politique, mais peut-être même de se questionner à quel pourrait être mon rôle si un jour... Et là, je m'exclus. Là, on exclut la personne qui parle ici. Mm-hmm. Là, soyons clairs, parce que je ne pense pas me lancer en politique. C'est pas ça que j'annonce ce matin, loin de là. Mais entendre ce genre de fille-là parler, ça m'amène quand même à me questionner sur si un jour j'avais à me présenter en politique, quel serait mon intérêt? Qu'est-ce que je pourrais faire pour ma ville éventuellement? Je trouve qu'il y a quelque chose qui... Ça nous pousse par en avant, là. D'entendre des filles comme ça, des filles, une femme intelligente, une femme brillante qui s'est impliquée. Quand elle parlait, entre autres, de l'itinérance, de l'avoir vue, de l'avoir vécu comme ça dans Saint-Roch, étant donné que leur bureau était où l'ancien Benjo, d'avoir quelqu'un qui est vraiment sur le terrain. Bref, ça insuffle un vent de fraîcheur et quelque chose de très rassurant, je trouve, pour notre avenir politique comme ville.
Puis en même temps, j'envoie un petit salut à Claude Villeneuve. Je ne sais pas si tu as entendu l'extrait de sa conférence de presse plus tôt cette semaine, quand il parle du fait que il aurait pu switcher puis être anti-tramway, puis il aurait fort probablement eu de meilleurs résultats, puis qu'il l'a pas fait. Puis ce qu'il a expliqué à son équipe, c'est « Je me suis posé la question ». Moi, je préfère-tu faire partie de l'exécutif? Je préfère-tu être réélu pour 4 ans ou avoir un tramway dans 10 ans?
Ouais.
Puis moi, ben, je pense à mes deux filles.
Ouais.
Puis ce que je veux pour l'avenir de mes filles, puis c'est un tramway. Ça, c'est beau, puis c'était vrai. Puis ça aussi, j'ai trouvé ça. Puis tristement, Claude Villeneuve n'a même pas passé proche d'être élu, non seulement comme maire, mais même dans son quartier.
Ben oui.
Puis Québec d'abord a été complètement rayé de la carte, mais ça m'a fait dire, OK, ce gars-là, t'es vrai. Puis on s'en doute, je pense qu'on s'en doutait pas, là. Je pense que n'importe qui a vu Claude Villeneuve dans les dernières années, on peut y reprocher bien des affaires, mais je pense qu'il a toujours resté vrai.
Ben, il y aura toujours des choses à reprocher à des politiciens. Puis il y a toujours des choses à reprocher aux gens dans la vie en général, là. Peu importe le domaine dans lequel on travaille, il y a des gens qui vont apprécier ton travail comme animateur, qui vont moins l'apprécier. Même chose pour moi de mon côté aussi. Mais chose certaine, tu sais, il n'y avait pas de stratégie pendant, en milieu de campagne. On n'a pas senti justement un changement de cap qui se voulait être stratégique parce que là, oups, on est en train de le sentir qu'on est peut-être en train de l'échapper. Puis ce qu'on peut donner à Claude Villeneuve, parce que tu sais, c'était mon député, moi, dans le secteur où j'habite.
Mon conseiller, oui.
Mon conseiller, pardon. Puis on le voyait. Claude Villeneuve, on l'a vu. Dans les quatre dernières années, on l'a croisé dans Limoilou, dans les Raies, on le voyait à l'épicerie, on le croisait à la pharmacie. C'était un gars qui était présent sur le terrain pour son district et c'est un homme qui parlait aux gens et qui était à l'écoute de leur réalité à eux aussi et non pas juste sa réalité de lui comme politicien et où il veut se situer. Fait que, tu sais, je pense que c'est des grands hommes et des grandes femmes... comme ton interlocutrice de tout à l'heure, Micha, qui vont faire en sorte que les gens vont continuer à s'intéresser à la politique aussi.
Et pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale du Québec, hier matin, 8h30, une certaine Isabelle Poulet, que je n'avais jamais entendu son nom avant hier, mais elle est là depuis plusieurs années, call une conférence de presse à 9h30. On apprend qu'elle va quitter la coalition Avenir Québec. Finalement, quelques minutes avant 9h30, on nous dit « Hey, conférence de presse annulée. » Elle va rencontrer, elle a accepté finalement de rencontrer François Legault qui veut la convaincre de rester. Ça va se faire en après-midi. En fin de matinée, Pablo Rodriguez, le chef du Parti libéral du Québec, dit « Ouais, c'est parce que Mme Poulet, elle voulait sauter à la clôture puis s'en venir chez les libéraux. »
Puis pas juste une fois, ça faisait une couple de fois qu'elle communiquait avec le Parti libéral. Là.
Et finalement, quelques minutes avant 18h hier, François Legault annonce l'exclusion de Mme Poulet du caucus. Fait qu'elle est passée de vouloir sacrer son camp puis de l'annoncer elle-même le matin à Legault essaye de la retenir, à Legault annonce qu'il l'exclut. Des opportunistes comme ça en politique, là, il y en a. Puis on a un autre exemple au fédéral. Député d'Acadie-Annapolis, Chris D'Entremont,
ouais,
qui a quitté le Parti conservateur du Canada pour joindre aux libéraux de Mark Carney hier.
Ouais.
Sauté à clôture de même. Une journée, jour de budget.
Ouais.
Passe des conservateurs aux ennemis jurés des libéraux.
Ouais.
Des opportunistes de même, là, ça enlève le goût de croire en la politique.
C'est pour ça que l'entrevue que tu as faite tout à l'heure a fait du bien parce que ça vient comme rééquilibrer un peu, on dirait la patente. Mais effectivement, t'sais, pis surtout qu'hier, on s'attendait, ça coulait quand même dans les différents médias d'information. Mais honnêtement, moi, je m'attendais vraiment à ce que ça soit une rencontre avec Mme Poulet pour essayer de la convaincre de rester avec le parti, étant donné qu'avec Lionel Carman la semaine dernière, on est déjà à 8 quand même députés qui ont quitté la CAQ depuis 2022. Là, on remonte quand même en 2022. Puis on sent que c'est chambranlant.
Ben oui.
En ce moment, la CAQ, c'est la table qui gosse au restaurant.
Ben attends, on va entendre Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois. On se doute bien qu'il y en a pas mal de caquistes qui veulent quitter, puis que moi, j'ai parlé la semaine passée à Maïté Blanchette-Vézina, qui fait partie de ceux qui ont quitté la CAQ pour devenir indépendant. Puis ce qu'elle me disait, c'est il y en a une couple qui sont informés auprès de moi de hey, comment ça marche être indépendant, c'est comment. Et là, voici ce que Paul Saint-Pierre Plamondon avait à dire ce matin.
Mais on a appris qu'elle avait parlé aux libéraux. Finalement, elle se fait expulser. On ne l'aura jamais entendue. Je ne suis pas très surpris. Il y a des députés caquistes qui ont approché le Parti québécois dans les derniers mois. Un certain nombre.
Mais non,
une pluralité. Moi, vous voulez que je les nomme. Mais la différence, c'est que moi, si quelqu'un me dit c'est un échange confidentiel, j'ai l'intégrité de garder ça confidentiel. Tu sais, il y a des choses qui se font, puis il y a des choses qui se font pas. J'avais dit d'avance, puis j'ai le mérite d'avoir été clair, qu'il n'y aurait pas de transfert caquiste. Donc, malgré ces approches-là, notre réponse est toujours la même. On sait aussi, mais vous savez, je pense, si vous faites votre travail de terrain, que Mme Poulet n'est pas la seule parmi les caquistes à avoir des discussions avec les libéraux. Et donc, moi, je laisse ça aux libéraux puis aux caquistes, ces histoires-là.
Il y a une pluralité de députés caquistes qui auraient approché le PQ pour se tâter une place.
C'est que là, on parle, tu sais, comme tu disais, oui, peut-être d'opportunisme. On parle de gens qui sont des politiciens, politiciennes de carrière aussi. T'sais. Ça, c'est la partie, je pense, qui est importante de ne pas oublier. Par exemple, c'est quand tu fais ça dans la vie, on ferait tous la même affaire. T'sais. Imaginez-vous dans votre domaine, peu importe le domaine dans lequel vous travaillez, vous n'êtes plus heureux. Ça se peut très bien qu'à un moment donné, toi, Max, ici, t'es plus heureux, puis que tu prennes le téléphone, puis que tu appelles 2-3 autres stations de radio dans la ville de Québec pour tendre une perche, faire comme « Hey, moi, je fais ça dans la vie. Je suis politicien, politicienne. Actuellement, les lignes de mon parti... Mes conditions ne me conviennent plus. Est-ce qu'il y aura un intérêt pour votre côté? » là où j'ai l'impression des fois qu'on creuse pas assez, c'est à savoir un député qui va appeler le PQ. Est-ce que c'est parce que justement il est allé sur le terrain et il a constaté que les gens qui l'ont élu, eux, se positionnent derrière le PQ de plus en plus et lui ou elle décide de servir les citoyens en se disant « ben si c'est ce que les citoyens veulent, peut-être que je serais mieux d'aller avec ce parti-là. »
Hey, c'est beau comment tu es optimiste, Nathan. C'est beau.
Ouais.
C'est beau ta naïveté, Nathan.
Je sais.
C'est très beau.
Je sais. C'est ça, je pense que c'est peut-être le papa en moi, Max, qui parle de vouloir montrer aux enfants qu'il y a du beau dans tout,
ouais,
dans la vie. Même hey, si c'est noir, il y a une parcelle de rose quelque part.
Mais être un politicien, là, qui a entendu ce que tu viens de dire, c'est sûr, je l'expliquerai de même. Là.
Ben là...
Mes amis, c'est parce que, écoutez, là, moi, je suis allé sur le terrain, j'ai parlé à mes citoyens et mes citoyens veulent appuyer le Parti québécois. Donc moi, j'ai du leadership, je prends les devants et je veux représenter mes citoyens. Donc, j'ai voulu approcher le Parti québécois.
Tu sais, c'est la partie qui manque dans la publication sur les réseaux sociaux de Mme Poulet ce matin, tu me corrigeras si je me trompe, mais... Selon moi, stratégiquement, ce qu'elle aurait dû faire, c'est tenir quand même la conférence de presse demain matin. Hier matin, c'est-à-dire.
Oui.
OK? Tenir la conférence de presse et après ça, voir si, malgré la décision, il y a des députés de la CAQ ou peut-être même M. Legault qui décide quand même de prendre le téléphone puis de dire « Hey, tu viens d'annoncer ton départ, mais j'aimerais quand même ça qu'on se parle. » Ce qu'elle aurait dû expliquer, puis ce qui n'a peut-être pas été fait de fond en comble, c'est « J'ai décidé de reporter la conférence de presse en me disant que peut-être que j'allais être capable de changer des choses. En allant m'asseoir avec une partie du caucus et avec le premier ministre, peut-être que... » Parce que peu de temps après, là, il y a eu finalement la décision de suspendre deux points dans le projet de loi 2. Ça, c'est sorti après cette information-là, hier, dans l'ordre chronologique. Donc, est-ce que... Moi, quand j'ai vu la nouvelle sortir concernant le projet de loi 2, je me suis dit peut-être que c'est ça. Les différents députés qui se sont rassemblés avec Legault voulaient s'asseoir avec Mme Poulet et dire « Hey, avant que tu partes trop vite, parce que le projet de loi 2, c'est la goutte qui fait déborder le vase, sache qu'on va sortir nous autres prochainement pour annoncer ça, ça, ça. Est-ce que si on fait ça te convient de rester? » Mais c'est ces parties-là en coulisses, des fois, qu'on n'a pas. C'est ce jeu d'échecs-là, je pense, qui, au fil du temps, tanne les gens. Puis fait en sorte que, là, tout ce qu'on voit, c'est... ce que j'appelais il y a quelques semaines la fameuse politicaillerie. Ben là, t'appelles un autre pour voir, regarde, je sais que je serai pas réélu au prochain mandat, mais moi, les quatre prochaines années, je vais encore être là. Puis là, on tombe dans la perception de l'opportunisme.
Puis tu sais, ce matin, dans le point de presse que j'écoutais de Paul Saint-Pierre Plamondon, il a abordé un autre point. Le fait que Mme Poulet, elle te l'a défendu pas pire, la loi 2.
Ouais.
Elle l'a défendu, hein, c'est ça. J'ai revu les extraits vidéo, puis elle l'a défendu pas à peu près. Donc ça, je la laisse à elle. Peut-être que ce serait un bon exercice pour elle de venir devant vous puis de vous expliquer son point de vue là-dessus. C'était ce qu'elle était censée faire ça hier.
Tu crédites ce qu'elle dit, compte tenu qu'on apprend qu'elle magasinait avec les libéraux? Là.
Comme disait Bernard Landry, audi alteram partem. Qu'elle vienne s'expliquer puis qu'elle parle devant nous puis on comprendra peut-être plus ses motifs. Mais à sa décharge hier, elle voulait s'exprimer. Je pense qu'elle a été... peut-être un peu trop de bonne foi en acceptant une rencontre en après-midi puis en assumant que lorsqu'on dit que c'est confidentiel, les gens ont tous les principes pour que certaines choses demeurent confidentielles. Elle se retrouve dans la position...
Si après coup, après Bâillon, il y a des caquistes qui se rendaient compte de l'impact de leur projet de loi, un peu particulier, il n'aurait pas été mieux dispensé avant?
Je pense que c'est plus qu'on est devant une perte de confiance dans la manière dont... Christian Dubé a mis en place les étapes précipitées.
Ça, c'est une autre affaire quand tu es dans un parti. C'est que c'est facile à dire par après. Ouais, ben là, il y avait juste à quitter s'il n'était pas d'accord avec la loi 2.
Oui.
Mais sur le coup, là, tu te le fais expliquer. C'est un document d'au-dessus de 100 pages. Tu te fais expliquer les grandes lignes. On sait que tout le monde, à peu près, est en accord au Québec avec le fait qu'il faut changer le mode de rémunération des médecins. Ben, tu vas voter pour, puis tu vas aller de l'avant, puis tu vas faire confiance à François Legault, à Christian Dubé, si t'es au sein de la CAQ.
Ben, absolument. Puis, tu sais, ça, ce point-là, elle l'a expliqué dans la publication aussi, tu sais, que tu m'as partagé ce matin. Tu sais, elle a dit « J'étais en accord avec le principe du projet de loi 2, améliorer l'accès à la première ligne pour les Québécoises et les Québécois, mais j'ai été profondément déçu par la manière dont ce projet de loi a été présenté et géré. Un document... qui était le projet de loi 6 d'une quarantaine de pages, si je me souviens bien. Finalement, ça devient le projet de loi 2, 113 pages exactement. On dépose ça à la va-vite, puis on demande aux élus de voter ça au beau milieu de la nuit, finalement, alors que est-ce qu'on a vraiment le temps d'éplucher puis de comprendre? Je pense que là, c'est peut-être ça, en ce moment. T'sais, c'est qu'il y a des députés caquistes qui se sont fait mettre dans la gorge un projet de loi et ils se sont fait dire « Je suis le boss. »
Exact.
Puis là, il faut que tu suives le boss si tu veux rester dans le bateau de la CAQ. Sauf que, tu sais, à un moment donné, n'importe quel député a juste deux bras là, pour réussir à boucher les trous de cette barque-là qui est en train de couler tranquillement, pas vite aussi. Peut-être qu'ils ont les bras fatigués puis qu'ils ont envie de mettre ces efforts-là ailleurs. Je pense que Mme Poulet, c'est peut-être un bel exemple en ce moment.
En terminant, Nathan, un beau commentaire à ton endroit qui est entré par texto. On dit que tu es la version masculine de Misha Hurstwill.
Oh, Colin!
C'est un beau compliment,
c'est
ça.
C'est un beau compliment, ça. Merci beaucoup.
Deux éternels optimistes.
Oui, peut-être. Effectivement aussi.
Mais ça en prend, puis c'est beau.
Bien, tant qu'on continue à y croire, même si des fois j'ai des lunettes roses un peu, je pense que ça permet de continuer à avoir des discussions comme on a ce matin. Puis je pense que ça continue, tu sais, ça nous permet de continuer à débattre. Puis ce qu'on veut, c'est que ça soit en mouvement.
Ouais.
Le mouvement n'est pas toujours le fun, mais là, il y a du mouvement en ce moment au niveau politique, autant au niveau municipal que provincial que fédéral. Tant que c'est en mouvement, c'est parce qu'il y a des choses qui se brassent, il y a des décisions qui sont en train de se prendre, puis c'est ce qu'on veut comme société. Pour continuer à avancer, il faut rester en mouvement.
Nathan Meilleur, un gros merci. À mercredi prochain.
À mercredi prochain.
Il est 11h, non, c'est pas vrai, 10h57 dans le Point de Max à Boulevard. Puis ce que ça veut dire, c'est qu'à 11h, dans quelques minutes, on reçoit Audrey Pinchot pour l'Open Mic. Le Point de Max. Oh oui, encore une belle heure à peu près à faire ensemble dans le Point de Max à Boulevard. L'Open Mic s'en vient avec Audrey Pinchot et Guillaume Dulude dans les prochaines secondes. Le temps de vous dire qu'après avoir accordé 3 buts sur 5 tirs en début de match, Samuel Montembeau s'est bien repris avec une performance de 38 arrêts pour mener le Canadien une défaite de 5-4 en tir de barrage. Je serais pas prêt à dire que c'était un bon match là, quand t'accordes 3 buts sur 5 tirs. C'est assez tough, mais c'est bien repris. C'est ce que je peux mentionner. Kirby Dach qui a marqué 2 buts. Ivan Demidov qui a été spectaculaire avec 1 but et 1 passe. Nick Suzuki, le capitaine, qui a aussi marqué 2 mentions d'aide pour Lane Hudson, dont une spectaculaire sur le but de Demidov. Le CH qui se retrouve donc ce matin au 2e rang du classement général de la Ligue nationale de hockey derrière les Nordiques de Québec, l'Avalanche du Colorado. Prochain match demain face aux Devils du New Jersey. Ce sera une grosse commande. En fait, 2 grosses commandes qui attendent le CH. Les Devils demain et samedi, c'est le Mammoth de l'Utah. 2 grosses formations contre toute attente en ce début de saison. 2 équipes qui marquent beaucoup de buts. Et tant qu'à être dans le hockey, vous dire qu'il y a un rare match de semaine au Centre Vidéotron. Ce soir, les Remparts de Québec qui reçoivent mes Foreurs de Val-d'Or. Des matchs qui sont à la portée des 2 équipes. Je dis des matchs parce qu'il y aura un autre duel entre les 2 formations. Vendredi. Fait que ce soir et vendredi, programme double entre les Remparts de Québec et les Foreurs de Val-d'Or. Audrey Pinchot, t'as bien l'air d'avoir mal à la tête ce matin.
Bon matin, Max! Comment ça va?
Ça va, toi? T'as mal à la tête?
Ça va bien. Il y a des journées de même, moi.
Ouais, tu as mal à la tête. Hein?
J'arrête de dire comment je file avant de rentrer en onde. Je pense que c'est ça le truc. Hein? Non, mais pour vrai, confession, parce qu'on peut être humain dans ce show-là.
Oui.
Là. J'ai vraiment une semaine de cul à date.
Bon!
Oui, mais pour aucune bonne raison.
Ben, vois-tu, ça arrive.
Ben, totalement. Je sais pas si c'est la météo, je sais pas si je dors
Changement d'heure.
Oui, mais j'ai ça, mais tu sais, là-dessus, je me dis que c'est peut-être juste un addon. Tu sais, je suis déménagée, hein, puis j'ai changé de matelas, puis j'ai changé de plein d'affaires, puis on dirait que adaptation, fait que...
C'est beaucoup de changements.
Mais je suis de bonne humeur. Merci pour, okay. Merci pour ton écoute.
Oui, ben tu sais que je suis toujours là. Je suis pas toujours bon pour écouter et accueillir, mais...
Ben, en réalité, t'es probablement un de mes amis les plus mauvais en frais de discussion, de confession, mais t'écoutes. C'est ça, faut te le donner.
Oui, j'écoute. Je suis là. Puis je place des petites blagues parce que je suis mal à l'aise. Puis,
T'es malaisant aussi par le fait même.
Ben, c'est ça.
Mais c'est drôle parce que là, tu me dis ça, puis on dirait quasiment que c'est prévu. On est bon en théâtre d'été cette semaine.
Mais là, c'en est pas ça.
Mais non, c'est ça, c'en est pas. Sauf que le pire, c'est que ça a quand même un lien avec ce qu'on va jaser aujourd'hui.
Bon!
dans la mesure où, puis là, on pourrait mettre ça sur la pandémie, mais je trouve ça le dos large aussi. Ça me tape sur les nerfs qu'on trouve des raisons à tout le temps. Là, je pense que c'est juste la société dans laquelle on vit. Mais il y a une grande baisse des compétences sociales, je trouve. Et c'est de ça qu'on va jaser aujourd'hui avec Guillaume Dulude, qui est docteur en neuropsychologie. L'open mic. notre jeu réflexe d'en parler, toi et moi, d'ami à ami, dans la mesure où t'es quelqu'un qui regarde pas beaucoup le monde dans les yeux.
J'ai de la misère.
T'es évitant du regard, t'es quand même renfermé. Quand t'es mal à l'aise, t'es sur ton sel. Mais tu sais, en même temps, je parle de toi, mais c'est la majorité des gens aujourd'hui. Puis je sais pas si c'est la façon dont j'ai été élevée, mais chez nous, c'était tellement important le fait de connecter visuellement avec quelqu'un, puis d'être présent, puis d'être là dans le moment. Mais même avec le temps, je réalise que moi aussi, je perds certaines capacités, compétences sociales. Que ce soit par mon langage corporel, le fait que ma tête s'en va ailleurs, le fait que personne ne regarde le monde dans les yeux maintenant. Fait que moi aussi, j'ai le réflexe de développer le regard un peu plus fuyant.
Mercredi passé, j'ai pogné quelque chose parce que je sais pas ce qui t'arrive, là. Tu m'as pas regardé dans les yeux dans un chin.
Gars, tu vois, je suis en train de changer, Max.
Alors que d'habitude, tu as le malheur de pas regarder quelqu'un dans les yeux dans un chin, puis qu'Audrey Pinchot est là. Hey, t'as intérêt à t'atteler, là. Puis là, j'ai figé. Oh, voyons donc, Audrey, tu m'as pas regardé dans les yeux.
Mais c'est ça, puis le langage corporel est souvent plus honnête que les mots. Puis je trouve que ça en dit long, le langage corporel puis la façon dont on réagit. Est-ce que vous sentez qu'on a une baisse des compétences sociales en général? 88-971-1021. Puis là, c'est tellement large comme sujet parce qu'on pourrait parler dans le dating, on pourrait parler au travail quand tu as une rencontre avec ton boss, on pourrait parler de mille et un paliers. On va essayer d'être le plus large possible. Ceci dit, si vous avez des questions pour Guillaume, encore une fois, 88-971-1021. Guillaume, bon matin!
Bon matin, vous deux.
Trouves-tu qu'on a perdu nos skills sociaux? On a l'impression d'avoir perdu nos muscles même sociaux, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se sente aussi rouillé puis maladroit dans nos interactions aujourd'hui?
Bien, c'est vrai qu'on a de moins en moins de capacités relationnelles.
C'est
et
fou.
Je dirais que la communication, c'est un outil, hein, c'est pas un but. Fait que c'est comme n'importe quel outil. Fait qu'il s'agit de savoir mais pourquoi tu voudrais cet outil-là qui est de la communication. Et c'est là que ça nous mène plus vers le bobo, c'est-à-dire l'engagement relationnel, le développement des relations, c'est plus une priorité maintenant. Donc, si tu écartes cette priorité-là, que tu veux créer des relations, tu veux créer des engagements, tu veux résoudre des conflits, ça t'intéresse plus parce que tu penses que tu n'en as pas besoin tant que ça, ou que plus tu évites ça au fil des années, ben plus ça te rend anxieux socialement, donc plus tu peux te réfugier sur ton téléphone. Donc, on est dans une espèce de point tournant, puis oui, c'est vrai, la COVID a contribué à ça. Il y a eu un point tournant relatif à ça, mais il y a eu un point tournant technologique. C'est que les habiletés relationnelles, comme tu dis, c'est qu'ils servent moins parce qu'on a moins l'intention de créer des relations.
Bien, même que, tu sais, on parle d'habileté relationnelle, mais tu sais, tu as renommé la pandémie, puis ça me fait penser au fait que quand ça a fini par s'apaiser un peu, cette affaire-là, là, tu sais, on parlait d'à quel point les gens étaient rendus impatients sur les routes, à quel point on avait de la misère à se sentir, là, d'humain à humain, là. On n'est plus doux.
Bien, c'est sûr que la COVID, ça a été un événement qui a créé beaucoup d'irritants, puis je pense que ça crée une espèce de volonté d'auto-remboursement. Là. C'est-à-dire que là, j'ai comme gaspillé des mois puis des années de ma vie à faire pas grand-chose puis pas avoir des bonnes conditions de vie. Puis t'as comme plus le goût de penser aux autres. Tu veux penser juste à toi. Fait que ça, je pense qu'il y a eu une part d'irritabilité relative à ça.
L'importance du regard, Guillaume, on en parlait d'entrée de jeu, Max et moi, je croise de plus en plus de gens qui ont de la misère à te regarder dans les yeux quand tu te parles. Puis je sais pas si je suis seule dans cette situation-là, mais pour moi, ça en dit excessivement long sur une personne. Je me force à soutenir le regard dans la vie pour montrer que je suis toute présente dans une conversation.
Pas trop longtemps, s'il te plaît, c'est mon pire cauchemar. Comme là, je te regarde dans les yeux, puis je me force, là, vu que c'est le sujet. Là.
Mais moi, je me suis pratiquée, okay, c'est pas venu naturellement.
Besoin d'un break.
C'est pas venu naturellement, mais il me semble que l'usage du regard, au-delà du simple contact visuel, il y a quand même une importance là-dedans pour lire les, je sais pas, les émotions, le...
Oui, c'est vraiment important. Il n'y a rien de plus précis que les mouvements oculaires. C'est très difficilement falsifiable. Il y a tout l'univers des muscles involontaires, mettons le cœur ou les intestins, c'est tout le système autonome. C'est pas quelque chose que tu peux contrôler volontairement. Puis tu as des systèmes musculaires qui sont volontaires, c'est-à-dire je peux lever ma main, je peux même sourire si ça me tente. Mais tout dans la communication relève pas du contrôle volontaire. Il y a des choses qui sont comme directement branché sur le cerveau et ce qui reflète le plus ce qui se passe dans le cerveau, ben, c'est les yeux. C'est très difficile à falsifier et c'est pour ça que c'est une priorité voir les yeux. Parce que ce qu'on a l'habitude de faire, c'est que on va aller regarder les deux yeux d'une personne et après ça, on va comparer en triangle en dirigeant notre regard vers la bouche pour comparer les signaux de l'activation consciente musculaire de la bouche puis les comparer avec les signaux non volontaires entre les yeux. Puis là, si ça, il y a une correspondance, ça installe plus de confiance parce que ce que ça dit, c'est ce que la personne veut consciemment me démontrer, c'est pas mal ce qui est représenté dans sa tête. Donc, quand il y a une cohérence entre, par exemple, la bouche et les yeux, ça augmente ton désir de te confier, ça augmente la sécurité, ça diminue l'anxiété. Donc, les yeux, c'est super important.
Mais ça, ce que tu viens de dire, Guillaume, mais est-ce que tu t'en rends compte que tu fais ça quand tu parles à quelqu'un, que tu analyses ses yeux puis sa bouche, ou ça se fait naturellement dans ta tête que si tu te rends compte que ça fit, que ça match, ben tu vas être plus porté naturellement à te confier?
Oui, c'est automatique. C'est une question de millisecondes. Quand tu rentres dans une pièce, tu vas aller chercher les yeux de certaines personnes et automatiquement, tu vas avoir ce qu'on appelle une première impression. Ça se peut que la première impression soit plus une valence émotionnelle positive, puis parfois c'est plus négatif. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne personne que tu as vue ou que ça va mal aller. C'est juste qu'on vient avec un bagage, on vient avec des biais. Puis quand on voit certains mouvements oculaires, certains traits faciaux, certaines expressions, il y a déjà comme une espèce de préjugement qui se fait. Fait que on va toujours regarder les yeux, puis ça se fait en quelques millisecondes. Et tu parlais de, tu sais, qu'on a de la misère à regarder dans les yeux. Quand on fuit le regard d'une personne, c'est corrélé à de l'anxiété. Donc, il y a comme une souche d'anxiété sociale quand tu as de la misère à tolérer le regard d'une personne. Et c'est de plus en plus courant, en fait.
J'ai un texto qui est entré qui me fait rire. Je suis socialement incompétent puis je constate que le monde s'en vient pire que moi. Qu'est-ce qui fait que tu es socialement compétent ou incompétent de base? Parce qu'au-delà là, de la pandémie puis du fait qu'on est de moins en moins bon puis des écrans, puis tu as du monde qui sont juste, on appelle ça en anglais socially awkward.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait que tu l'as ou tu l'as pas socialement?
C'est vraiment une bonne question parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de structures neuroanatomiques qui sont impliquées dans la communication humaine. C'est ça. La communication humaine, ça représente carrément la psychologie entière d'une personne. Donc, quand tu lis la communication d'une personne, tu lis le non-verbal, tu lis à quelque part ce que le cerveau fait. Tu lis ses priorités, tu lis ses biais, tu lis l'anxiété. Donc, tout ça, c'est visible. C'est sûr que plus tu as d'entraînement, plus tu es capable de voir de choses, mais tous les humains voient ça de façon relativement instinctive parce qu'on a besoin de déterminer avec qui je peux me vulnérabiliser puis faire confiance. Donc, on cherche des façons d'éliminer des gens, c'est-à-dire, non, cette personne-là me donne pas assez confiance, je peux pas aller plus loin que ça avec elle, parce que j'ai trop de risques. Il y a une constante évaluation des risques. Maintenant, qu'est-ce qu'une personne compétente socialement ou pas? Ben, il y aurait, mettons, une petite liste là, à voir, c'est-à-dire, mettons, dans une phase d'écoute, qu'est-ce que tu fais? Il y a des personnes qui écoutent mieux que d'autres. Juste dans la phase d'écoute, qui est l'essentiel de la communication, c'est pas quand tu parles, c'est quand tu écoutes. Il y a beaucoup d'opérations qui se déroulent là-dedans. La plupart des gens ne savent pas vraiment quoi faire quand ils écoutent. Fait que leur cerveau, il se trouve une tâche parallèle, comme par exemple une autre idée, un petit distracteur, ou ils coupent la parole, un nouveau sujet. Donc, il y a plein de choses qui peuvent interférer dans l'écoute. Puis dans l'expression, c'est la même chose. L'objectif de l'expression, c'est de verbaliser quelque chose pour qu'un message passe, puis un message qui est approprié dans l'instant présent. Mais tout ça, c'est quand même beaucoup d'opérations complexes et il y a des gens qui ont beaucoup plus de difficultés à ça, là. Puis c'est pas rare, hein, juste être clair. La plupart des gens qui veulent développer leur communication, ils se sentent pas qu'ils s'expriment bien ou qu'ils se sentent pas compris, ils se sentent pas qu'ils ont de l'impact quand ils parlent. Donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Fait qu'il y a définitivement la phase d'écoute, il y a la phase d'expression, puis après ça, il y a le timing entre les deux, c'est-à-dire quand. Quand est-ce que c'est à toi à parler, quand est-ce que c'est à toi à écouter et combien de temps.
J'allais te demander justement si tu pouvais le développer tes capacités, là. Je comprends que oui, là, tu as parlé d'apprendre. Comment tu fais ça? Tu sais, mettons, moi, je me dis, hey, là, je suis tanné de pas être capable de regarder quelqu'un dans les yeux quand je parle. Comment je fais? Si tu me forces à regarder dans les yeux quand je parle, puis d'essayer d'y penser le plus souvent possible, puis à un moment donné, ça va devenir naturel?
Ben, je pense que certains coachs ou même des psychologues qui conseilleraient ça, moi, ce que je te conseillerais, c'est pas ça du tout. Moi, je te conseillerais de clarifier ce que tu veux de cette conversation-là et que tu aimes suffisamment cet objectif-là pour justifier le fait que tu accroches tes yeux dans les yeux de l'autre personne. Ça te prend une raison. Si moindrement les raisons sont pas claires, l'anxiété va prendre le dessus et là, on va avoir un paquet de symptômes dans le visage, un paquet de petits tics dans la bouche, des petits rires, des sourires qui sont pas appropriés, des clignements d'yeux ou l'absence de clignements d'yeux qui veut dire que tu es en train de réfléchir pendant que l'autre parle. Donc, ça dépend ce que tu poursuis. Plus tu vois une communication comme une aventure, puis tu connais les règles du jeu, tu sais comment jouer. Comme, tu sais, je t'entends souvent parler de hockey, là, moi, là, quand tu parles de ça, pour moi, là, c'est comme si t'es un extraterrestre, je comprends rien là-dedans, là, tu sais. Mais si tu veux jouer à ça, faut que tu comprennes l'univers du hockey, faut que tu comprennes les règles du jeu, puis des habiletés de base. La com, c'est la même chose. Même si on parle, la plupart des gens n'ont pas des bonnes habiletés de com, puis surtout pas en 2025, 2026, où est-ce qu'on est complètement dépourvu pour faire face au tsunami technologique qui nous isole de plus en plus. Donc, on a encore plus besoin de ces habiletés-là pour avoir du fun à communiquer. Sinon, c'est l'anxiété qui gagne.
Mais c'est pas un manque de sincérité s'il faut que tu apprennes à communiquer. Comprends-tu ce que je veux dire?
Ben, dans quel sens ça serait un manque de sincérité?
Ben, tu sais, s'il faut que Max se force à me regarder dans les yeux quand on se parle,
C'est-tu que
puis
je l'aime pas au fond de moi?
Non, ça peut être une habitude, premièrement. Ça se peut que tu fasses ça tout le temps. Fait qu'avec l'habitude, c'est comme un petit réflexe. Les yeux vont à droite puis à gauche. Tout le monde a ses petits tics, ses petits réflexes. Fait que ça peut être quelque chose que quand tu transportes généralement dans tes relations.
Oui.
Mais c'est sûr que ça va être pire avec une personne qui te rend anxieux. Ça va être moins pire avec des personnes qui te rendent moins anxieux. Mais ça change pas que des fois, il y a comme des petits tics à casser, là,
OK.
pour remettre la communication sur la traque.
Hey, je te dis, Guillaume, depuis tantôt, je regarde Max dans les yeux. Je pense qu'il m'a regardé deux fois, le regard fuyant, ça me fait mourir. C'est un sujet qui fait beaucoup réagir par texto, là. Il y a bien du monde qui se retrouve dans ce que tu dis ou qui se trouve pas bon socialement. Et comment le cerveau interprète la communication via un écran vis-à-vis un échange réel? On a-tu les mêmes réflexes ou étant donné que l'écran nous sépare, ces réflexes-là sont pas là?
C'est une très bonne question. Alors, la plupart des comportements de communication vont être les mêmes, mais ça dépend de la qualité de l'image, ça dépend de la qualité là, du rafraîchissement de l'image. C'est-à-dire que le visage, c'est tellement précis que pour avoir les bons cues en temps réel, il faut que ta connexion Internet soit super bonne. Ça, c'est un gros facteur. Sinon, tu as un décalage, puis c'est comme il te manque 80% des signaux. Et l'autre chose, c'est que quand tu n'es pas en présence physique d'une personne, ça fait chuter l'indice de vulnérabilité entre les deux personnes. Et donc, la vulnérabilité, c'est ce qui prédit la relation. Fait que tu peux pas directement créer de la relation. Tu peux pas la synthétiser tout seul. Tout ce que tu peux faire, c'est créer des conditions ou de dévoilement. Et lorsqu'il y a des conditions de dévoilement, il va y avoir l'indice de vulnérabilité qui va augmenter. Et c'est là où la relation arrive comme une espèce de filet de sécurité pour compenser proportionnellement la vulnérabilité. Quand tu es en ligne, automatiquement, t'es extrêmement confortable sur ta chaise. La personne, elle, c'est juste une image sur ton écran, elle peut rien te faire. Donc, tu es comme un peu blindé de sécurité. La contrepartie, c'est que la vulnérabilité va être plus dure à aller chercher. Donc, il faut que tu sois plus habile pour aller chercher des meilleurs sujets de conversation pour développer ça, parce que la corporalité, la présence physique aide.
On a parlé de regard. J'ai envie qu'on parle de posture. Parce que chez nous, je sais pas pourquoi, mais la posture, c'était une obsession de mes parents. Regarde les gens dans les droits, dans les yeux, aie une bonne poignée de main, tiens-toi droite. J'ai même eu des livres sur la tête à un certain moment, là. Dans le sens que.
Étiez-vous des militaires,
Non,
Simonac?
mais ma, ma, mon, probablement par le travail de mon père, mais, je pense que mes parents m'ont beaucoup appris sur la première impression puis la confiance que tu peux donner à quelqu'un parce que tu dégages, puis le fait d'être accueillant, puis d'être solide, puis d'être ancré justement dans une discussion humaine que tu as, que tu entames. Fait que ça a toujours été je sais pas, mon premier réflexe quand j'entre dans une pièce, c'est malgré moi de juger les gens qui sont un fuyant du regard.
Oh,
ceux
non.
qui ont les épaules complètement rentrées par en dedans puis le dos courbé, là, qui sont super... je trouve que le physique parle énormément. Fait que ça faisait partie des choses qui étaient importantes chez moi, sans blague, à la maison, dans l'éducation. Puis la posture, j'ai l'impression que c'est une autre affaire, ça, qu'on perd, entre guillemets. Puis je sais pas à quel point c'est important, Guillaume, mais il me semble... posture de, je sais pas, on entend souvent parler d'ouverture, de fermeture. Là, je n'irai pas dans les bras croisés, c'est trop cliché, mais la posture en dit long aussi par rapport à la communication.
Absolument, c'est vraiment, vraiment important la posture. Puis on en parle très peu, mais la posture, c'est le jour et la nuit. Quand tu as une première impression d'une personne, la façon dont elle se tient, sa posture va influencer directement ton opinion d'elle. Donc la posture est très reliée à la sérotonine, c'est-à-dire que plus tu as une posture qui est solide, qui est droite, c'est plus en lien avec des émotions positives, c'est plus en lien avec l'extraversion, c'est plus en lien avec une sérotonine qui est dégourdie, c'est négativement relié à l'anxiété. Donc la posture parle, la position des épaules parle, la rotation interne des rotules parle. Fait que si une personne a le cou un petit peu vers l'avant, il a le dos un petit peu rond, les épaules vers l'avant, puis les rotules le tourner vers l'interne, automatiquement, on n'est pas dans une posture de leadership. C'est sûr qu'on part à moins 50. Mm. Donc, c'est important de contrôler sa posture, puis c'est important de prendre des bonnes habitudes. Par contre, ça ne sert à rien de dire au monde, ben, mets-toi des livres sur la tête, marche droite, mais tu ne sais pas quoi dire. Tu ne sais pas c'est quoi une relation, tu ne sais pas comment gérer un compte. C'est une partie des choses, mais c'est une partie qui est très importante, la posture, et on va même la sentir à travers les médias sociaux, puis on va la sentir à travers un écran.
Oh ben, on peut-tu parler un peu du « fake it till you make it » parce que moi, je sais que j'ai été longtemps une personne très, 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 très peu confiante. Et bon, je sais que l'estime de soi et la confiance de soi, c'est peut-être un... On en a parlé, Guillaume, là, c'est un concept qu'on partage peut-être un peu moins, mais ce que je veux dire, c'est que en mes capacités, j'avais pas beaucoup de confiance, mais parce que mes parents me disaient « tiens-toi droite », je donnais cette impression-là. Je me suis fait dire, c'est vraiment souvent, mais toi, Audrey, t'es en contrôle. Toi, Audrey, on le sent, là, que tu sais où tu t'en vas, puis t'as l'air confiante, puis et pourtant. Mais ça se peut-tu que le « fake it till you make it » aide dans ces cas-là, puis te mène justement à l'incorporer naturellement?
Ben tu vois, il y a une partie que oui, puis une partie que non là-dedans. C'est-à-dire, j'aime pas l'expression « fake it until you make it », parce que c'est comme, combien de temps faut que tu fakes?
Mm-hmm.
Puis quand est-ce que tu peux dire « ok, ça y est, c'est rendu vraiment ma nature, je le fake plus mm-hmm. » C'est comme, non, tu travailles là-dessus. Donc, si tu travailles là-dessus, tu travailles à améliorer tes comportements. Donc, c'est un work in progress. Donc, c'est pas fake it, c'est mets les bonnes, pratique les bonnes habitudes jusqu'à ce qu'elles deviennent plus automatiques pour qu'elles s'incorporent à ta personnalité. Mais c'est pas fake it, c'est work on it et ça va s'améliorer. Donc, je dirais ça serait une meilleure phrase que « fake it », je pense. Parce que sinon, les gens se disent « moi, je vais être authentique, je ne veux pas faire semblant, je ne veux pas faire quelque chose qui ne me représente pas ». Non, c'est « tu veux jouer au hockey, joue bien ». C'est pas « apprends à faire des bons jeux, apprends à faire du bon patin, apprends à te tenir, apprends à écouter, apprends à savoir quand hocher la tête, quelle amplitude, quand est-ce que c'est ton tour de parler. Apprends les règles du jeu, puis apprends la posture. » Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sportif que être quelque chose, la communication. C'est très, très dynamique, puis c'est super intéressant quand on sait quoi pratiquer.
Mais comme dans le sport, puis comme dans un peu tout... j'ai l'impression, j'ai même la certitude, j'ai envie de dire, puis au pire, tu me reprendras, qu'il y en a qui l'ont beaucoup plus facile puis naturel que d'autres, puis qui n'ont pas à le travailler, puis qu'eux autres sont nés de même, puis sont nés qui marchent drette, puis qui regardent dans les yeux, puis qu'il n'y en a pas de problème. Là.
Ben, il y a une partie que c'est l'éducation, puis il y a une partie que c'est la structure neurobiologique de la personne. Je pense qu'on a déjà parlé des 5 traits de personnalité dans des discussions précédentes. Par exemple, le neuroticisme, c'est la quantité d'émotions négatives. Plus une personne a le neuroticisme élevé, plus elle a l'anxiété qui est élevée. Plus l'anxiété est élevée, plus il va y avoir des micro-comportements d'évitement. Comme le dos courbé, puis une mauvaise posture, c'est une forme d'évitement. C'est-à-dire, je me cache de mon propre corps. C'est comme ton corps veut se cacher pour pas être trop visible de la part de l'environnement. Tandis qu'une personne, mettons, qui a moins d'émotions négatives, qui a beaucoup d'extraversion, elle veut être vue. Et le charisme, c'est la volonté et la conscience d'être vue. Une personne qui rentre dans une pièce, elle, elle veut être là, elle veut faire le contact, elle veut être vue, tout de suite, elle va shiner, tout de suite, tu vas le voir dans sa posture, et ça, ça fait toute la différence, puis on le voit tout de suite, ça. Donc, on voit rapidement, grâce à ces signes-là, les intentions implicites d'une personne.
Je trouve ça fascinant. Après le regard, la posture, l'écoute. Je pense que l'écoute, c'est un art. Puis c'est peut-être moins physique comme trait, mais en même temps, tu le sens quand quelqu'un t'écoute pas physiquement. Je sais pas qu'est-ce qui détermine ça dans la face de quelqu'un, mais on dirait que tu le
sens. Les yeux puis la bouche, il l'a dit tantôt.
Certainement, je m'en allais là, ça doit aider. C'est quoi, mettons, là, de ton point de vue à la base, là, une écoute de haute qualité? Là, parce que j'ai l'impression que des fois, il y a des gens qui t'entendent et il y a des gens qui t'écoutent. Puis pour moi, il y a une large différence entre les deux.
Oui. L'écoute, c'est quand même assez un défi. Là. Même quand tu as toutes les règles, mettre tout ça en place pour quand l'autre parle, c'est quand même un défi. Oui, les yeux vont jouer, oui, la posture, oui, la forme de la bouche, les expressions faciales, mais ça part avec de l'attention. C'est-à-dire, il faut que tu contrôles ton attention consciente. Donc, dans le cerveau, il y a plusieurs types d'attention, comme tu as de l'attention qu'on appelle périphérique, c'est-à-dire sur le côté, là, 180 degrés, le système visuel, il peut voir les mouvements plus facilement pour aller reprioriser quelles sont les cibles importantes sur lesquelles mettre notre attention. OK? Fait que tu as de l'attention périphérique qui est plus alerte au mouvement. Et puis là, tu as de l'attention qu'on va appeler, mettons, fovéale, c'est-à-dire qui est connectée à un centre nerveux plus important dans le fond de l'œil. Donc, le traitement de l'information est beaucoup plus dense, beaucoup plus précis. Donc, quand tu mets ton attention consciente sur une cible, tu as un traitement de l'information qui est beaucoup plus fort. Donc, l'attention, ça semble quelque chose d'invisible. C'est vrai que c'est invisible, mais l'autre personne va reconnaître l'attention consciente et on peut voir si une personne met son attention consciente au complet sur toi. Une des choses qu'on peut regarder, c'est si tu parles avec une personne puis la personne arrête de cligner des yeux, c'est qu'elle n'encode plus d'informations. Donc, les clignements d'yeux, ça sert à encoder l'information quand tu écoutes. Donc, si une personne arrête de cligner des yeux, c'est parce qu'elle divise son attention entre ses propres pensées et toi. Donc, tu vas avoir une alternance attentionnelle et toute l'écoute se brise parce que l'autre personne va stopper son indice de vulnérabilité et va gérer les sujets en fonction de la sécurité que tu lui offres dans ta phase d'écoute. Par contre, si ton écoute est très stable dans les yeux des autres, tes clignements d'yeux sont adaptés, c'est de l'ordre de 17 clignements par minute normalement, ben on comprend, l'interlocuteur comprend que toute ton attention est sur lui et ça augmente son goût de parler, ça augmente le dévoilement et ça augmente la force de la relation. Fait que seulement, l'attention, c'est quelque chose qu'il faut que tu manies comme un sabre de samouraï. Il faut que tu saches exactement ce que tu fais dans ton attention et tout le reste va avoir une espèce de balai qui s'engendre avec l'autre personne.
Il y en a qui vont compter clignement d'yeux aujourd'hui.
Je vais virer folle. Je trouve ça tellement, mais tellement intéressant. Le temps file, Guillaume, puis peut-être qu'on aura l'occasion de faire une partie 2 avec ça parce que je regarde les textos rentrés. Définitivement, il y a une couple de personnes qui ont envie justement qu'on pousse la réflexion. Il y a beaucoup de monde, de monde qui nous demande de pousser la réflexion sur le non-verbal, justement. Tu sais, un exemple que tu viens de donner avec les clignements d'yeux, peut-être qu'on pourra s'en monter quelques-uns puis se faire une suite. Pour aujourd'hui, j'ai envie de terminer en te demandant, mettons là, les gens qui nous écoutent depuis tantôt puis qui se disent « t'as à boire, j'ai de la job », c'est quoi le premier petit truc concret sur lequel tu peux travailler à partir d'aujourd'hui pour reprendre contact avec tes compétences sociales?
Je dirais qu'il y en a deux. La première chose dont on a parlé au début, c'est clarifier ce que tu veux de cette conversation-là. Déjà, est un objectif. C'est super important d'avoir un alignement. La plupart des gens rentrent dans des communications, puis ils veulent soit réduire les émotions négatives, ou soit passer le temps, ou c'est pas trop clair. Juste l'absence de clarté de but va créer un paquet d'interférences et va déstabiliser l'attention consciente. Donc, première chose, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est vraiment savoir comment une personne se sent? Est-ce que c'est résoudre un problème? Est-ce que c'est de partager une idée? C'est-tu d'explorer un sujet? C'est quoi que tu veux? Donc, il faut que tu prépares ta communication avec quelque chose qui t'intéresse vraiment. La deuxième chose, ce serait relié à l'attention. Le défi, ça serait toujours de garder une seule cible attentionnelle pour les deux personnes à la fois. Donc, c'est comme le tennis. Tu as une balle, les deux joueurs regardent la même balle et c'est la balle qui va d'un côté à l'autre du court de tennis. Il n'y a jamais deux balles. Donc, c'est la même chose avec le focus attentionnel. Donc, si c'est moi qui parle, mon attention est sur moi-même, puisque c'est moi qui parle. Mais l'autre personne, ça veut dire que tu dois t'assurer que son attention est réellement sur toi, comme au tennis. Ça veut dire la personne qui parle, c'est elle qui a la balle. Et là, s'il y a un changement de rôle, ça veut dire que la balle va changer de camp. Donc, c'est l'autre personne qui va s'exprimer et par conséquent, ton attention doit suivre la balle. Donc, si le focus attentionnel est toujours le même pour les deux personnes, automatiquement, vous avez les meilleures bases pour créer de la vulnérabilité, explorer des bons sujets, puis que la conversation avance. Donc, synchronisation de l'attention et clarification des buts initiaux d'une conversation, ce serait deux excellents trucs.
Je trouve ça fascinant. Il y a quelqu'un qui nous demande par texto si tu aurais un livre à conseiller pour toutes ces techniques-là, ou peut-être que tu en parles sur ta page, sinon peut-être que les gens peuvent aller directement là.
C'est pas parce que je veux prêcher pour ma paroisse, mais j'ai écrit un livre qui décrit ça, que je pense que... ça s'appelle « Je suis un chercheur d'art », c'est disponible partout. Ça parle exactement de ça, tous les petits mécanismes, quoi faire quand tu parles, comment utiliser ta personnalité quand tu parles, qu'est-ce qui se passe quand tu écoutes, où est le sens, où est l'énergie, comment tu sens ça, les timings, les types de questions, les types de reflets. Donc, « Je suis un chercheur d'art », c'est une chose. L'autre chose, cette année, je vais mettre un fort accent sur la communication cette année, puis je vais sortir des nouvelles formations à partir de avril prochain pour apprendre à mieux communiquer. Donc, ça faisait longtemps que je travaillais là-dessus, puis je vais sortir des nouvelles formules cette année, fait qu'on va pouvoir se tenir au courant de ça.
Bien, écoute, assurément, on s'en reparle la semaine prochaine parce que je vois les réactions, puis on n'a pas fini.
Merci encore à vous deux de l'invitation, toujours apprécié.
Merci Guillaume. Salut, Guillaume. À la semaine prochaine, Guillaume Duluth, qui est docteur en neuropsychologie. Je ne savais même pas qu'il avait écrit un livre là-dessus. Je le répète, je suis un chercheur d'art, si ça vous intéresse. Définitivement, moi, ça m'intéresse. Ça m'a toujours fasciné. Mon premier regard, mon premier réflexe quand j'entre dans une pièce, fouille-moi pourquoi, c'est l'énergie que dégagent les gens, comment sont positionnés. Je trouve que ça parle beaucoup. Puis je ne suis pas parfaite là-dedans, loin de là. Je remarque que même moi, mon corps parle quand je suis inconfortable. Mais je trouve que c'est le fun d'en être conscient, ceci dit, surtout dans un univers puis un monde où on perd beaucoup, beaucoup le contact humain.
À matin, j'ai vécu l'affaire qui m'énerve le plus. Ben pas au monde, mais tu sais, quand ici, il y a un long corridor.
Oui.
Puis tu sais, quand tu commences le corridor, puis il y a déjà quelqu'un qui commence aussi le corridor
là,
à l'autre.
Tu dis salut de loin, mettons.
Non, tu le connais pas. Tu connais pas la personne. Puis là, avec là, j'ai tout de suite pris mon ciel, puis je regardais à terre.
Ah, voyons, toi!
Mais parce que si je regarde droit, on va se voir.
Ben
puis
oui,
on va
puis là, tu souris.
Non! Le Guillaume doit être découragé.
Épouvantable. Allez, on s'en parle demain.
Yes, merci beaucoup, Audrey.
Salut.
Au retour, on va faire un petit tour à l'Assemblée nationale parce que ça continue de bouger. Et Pascal CV vient faire son tour, puis je vais essayer de la regarder dans les yeux. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard 101. Pascal CV vient de faire son apparition très attendue en studio. Et dans les prochaines minutes, on va lui jaser. En attendant des petites nouvelles, les 27 directeurs médicaux et des services professionnels de Santé Québec qui travaillent sous l'autorité des PDG des établissements de santé qui réclament la suspension de l'application de la loi 2. C'était rapporté par Radio-Canada ce matin, puis c'est pas la seule nouvelle, encore une fois, aujourd'hui, qui vient toucher ce projet de loi-là, en fait, cette nouvelle loi-là. Dans la dernière heure ou à peu près, je vous dirais, François Legault qui a réitéré sa confiance au ministre Christian Dubé parce qu'encore une fois, ce matin, ce que nous rapportait le journal, c'est que même au sein de la coalition Avenir Québec, bien, il commençait à y avoir des élus qui disaient « Ouais, là, c'est parce qu'il faudrait que François Legault prenne le dossier en main. C'est la bonne personne pour ça n'est plus Christian Dubé. » Fait que c'est quand même quelque chose qui devient récurrent au sein de plusieurs groupes et là, même au sein de la coalition Avenir Québec, fait qu'on va continuer de suivre ça. Sinon, ben, présentement, Madame France-Hélène Duranceau, qui est ministre responsable de l'administration gouvernementale et de l'efficacité de l'État, est en conférence de presse par rapport à la présentation d'un projet de loi qui est déposé aujourd'hui concernant, entre autres, là, l'abolition ou la fusion d'organismes pour sauver du cash. Et il y a d'autres mesures là-dedans aussi. On va aller entendre dans les prochaines minutes Mme Duranceau. En attendant, deux petits faits divers dans la région. Le SPVQ qui a procédé hier soir à l'arrestation d'un suspect de 33 ans pour une agression armée dans le secteur de la Haute-Saint-Charles vers 21h40. Un appel a été logé au 911 concernant une dame blessée par arme blanche sur la rue Régent. Rapidement, les policiers du SPVQ qui sont rendus sur place ont localisé la victime à l'intérieur. Elle était consciente, mais présentait des blessures sérieuses qui, heureusement, ne mettaient pas sa vie en danger. Il y a des premiers soins qui ont été prodigués. La femme âgée de 64 ans a été transportée vers un centre hospitalier. Le suspect a été arrêté à l'intérieur du domicile, restait détenu, là, devait être rencontré par les enquêteurs. Puis ce qu'on nous dit, c'est qu'il s'agirait d'un événement intrafamilial entre le fils et la mère. Donc, triste histoire ici à Québec. Sinon, le service des enquêtes sur les crimes économiques de la Sûreté du Québec, en collaboration avec l'Agence des services frontaliers du Canada, qui a procédé hier à une opération pour contrer la fabrication et la possession de monnaie contrefaite dans un immeuble à logement de la rue Isidore-Garon à Québec. C'est une douzaine de policiers qui participaient à l'enquête depuis la mi-octobre. L'opération qui visait à récupérer de faux billets, des composantes permettant d'en produire ainsi que d'autres éléments de preuve. Mohamed Hedi Guedri, 24 ans, qui devait comparaître ce matin au Palais de justice de Québec pour faire face à des accusations de possession de monnaie contrefaite et de possession de biens criminellement obtenus dont la valeur dépasse 5 000 $. D'autres arrestations et perquisitions pourraient suivre. Parmi les éléments de preuve saisis figurent notamment un véhicule à titre de bien infractionnel et 2 700 $ en faux billets de 20 $, 50 $ et 100 $. Je vous parlais de l'annonce de Mme Duranceau, le gouvernement du Québec qui procède à l'abolition ou la fusion d'une dizaine d'organismes via un projet de loi qui est déposé aujourd'hui par Mme Duranceau. C'était le Journal de Québec qui avait la primeur ce matin et qui nous donnait comme exemple là, l'Institut national de santé publique du Québec et l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux qui seraient fusionnés. Québec qui profiterait du projet de loi pour aussi réduire la paperasse en diminuant la reddition de comptes. Toujours selon le journal, le projet de loi qui aurait aussi pour but de renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires. Puis ce qu'on dit, c'est que ce serait un début, qu'il y aura un autre projet de loi semblable pour être déposé dans les prochains mois. Et France-Hélène Duranceau répond actuellement aux questions des journalistes à ce sujet-là.
ETC parce que même
si c'est pas ça l'objet du projet de loi.
L'objectif du projet de loi, ça j'ai bien souligné. Parce que M. Legault a quand même promis de couper en profondeur dans chaque ministère. Les attentes sont très, très hautes.
Mais ça s'en vient, ça.
Il y a des chiffres qui ont circulé. M. Legault a parlé de 2 000 au printemps dernier. Il y a eu 6 000 qui ont circulé aussi. Juste savoir là, où on se situe environ. Parce que pour l'instant, les lecteurs, les spectateurs, ils seront peut-être un peu étonnés de voir qu'on parle de seulement 220 personnes, 35 millions. Donc, juste donner un horizon de ce qui s'en vient. Je sais que ce n'est pas le but du projet de loi, mais ce qui s'en vient en termes d'économie et de coupe de postes.
Bien, encore une fois, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui parce que une transformation de l'État, ce n'est pas annoncer des coupures de TC puis annoncer d'abolir plein de structures. Une transformation en profondeur puis un changement de culture, ça s'opère méthodiquement. Première étape, il y a des changements législatifs. Deuxième étape, il y aura des mesures relativement aux employés, puis on va continuer comme ça de façon méthodique et structurée pour que ces changements-là s'implantent et perdurent, puis que tout le monde embarque. Si on va dans toutes les directions, ça ne fonctionnera pas.
Oui, vas-y. Tu sais, dans le projet de loi...
Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'encore une fois, aujourd'hui, dans le projet de loi, il n'y a pas vraiment de grandes coupures. On sait que François Legault promettait un traitement choc. Là, c'est une des étapes du traitement choc. Mais, encore une fois, de ce qu'on comprend actuellement avec les infos qu'on a, il y aura un autre projet de loi plus tard, une autre étape, puis c'est là qu'on aura peut-être des coupures plus importantes parce que, pour l'instant, vous avez entendu Mme Duranceau répondre aux journalistes puis dire qu'aujourd'hui, ben elle n'allait pas répondre à ça spécifiquement parce que c'est pas le but du projet de loi du jour. Vous aurez tous les détails, vous allez en entendre parler là, avec Jeff, Pascal et Antonine ce midi, également l'équipe du retour. Le Centre de prévention du suicide qui offre des services professionnels en prévention, en intervention et en postvention auprès des personnes suicidaires, de leurs proches et des personnes endeuillées par suicide. Toute l'année, le CPSQ qui organise diverses activités bénéfices et des activités de prévention pour récolter des dons. Rendez-vous au blvd.fm, section événements pour tous les connaître. Le prochain événement qui aura lieu le 19 novembre, notez la date, rendez-vous dans l'une des 5 cages brasseries sportives de Québec pour un 5 à 7 au profit du Centre de prévention du suicide. Saviez-vous qu'en tant que citoyen, entreprise ou groupe, vous pouvez organiser des initiatives solidaires au profit de la prévention du suicide? Vous pouvez contacter le Centre au 418-473-8803. Votre don, c'est un geste concret qui donne de l'espoir. N'hésitez pas à parler du Centre de prévention du suicide du Québec autour de vous. C'est une ressource qui est essentielle, qui est accessible à tous. Besoin d'aide, ligne d'intervention confidentielle au 1-866-APPEL. Il y a aussi le clavardage en ligne 24/7 au www.suicide.ca. Et sinon, ben, il y a le texto 53 53 53 pour ce qui est du site du centre www.cpsq, cpsquebec.ca. Pascal CV, comment vas-tu? Pascal, bonjour.
Mon micro est pas ouvert.
J'avais ouvert le micro 3.
Et c'est de ton côté. Ça va bien?
Et tu étais au numéro 2.
Mais je te disais oui, ça va bien toi.
Oui, ça va bien, merci.
Ça va certainement mieux que ce qui se passe actuellement dans les nouvelles avec le projet de loi 2. Hier, j'ai une petite information d'ambiance pour toi. Tu faisais ton bulletin, t'en donnais des nouvelles tantôt. Vous savez qu'on se dit de bonne foi du côté du gouvernement depuis hier qu'on veut alléger un peu le projet de loi. Chose certaine, il y avait un webinaire hier qui se déroulait pour les professionnels avec des gens du gouvernement. Et les gens pouvaient poser des questions dans le genre de Zoom, là, tu comprends? Et on nous a mis la puce à l'oreille comme quoi il fallait être approuvé par un organisateur avec notre question pour qu'elle apparaisse sur le forum de chat. Donc, ça a été énormément déploré de la part des professionnels en santé. Là, comme quoi, ben là, encore une fois, on nous censure. C'est ce qu'ils ont comme impression, en fait, au niveau de leur question. Max, je m'en vais donner un gros coup de pied dans une boîte de Pandore, puis on n'en restera pas là, c'est certain.
Oh.
Il nous manque un peu de temps à l'émission, mais là, moi, tu sais, je suis tous les spotettes de ce monde, ou presque tout.
Oh,
si
oui.
Vous en avez à me conseiller, ça va me faire plaisir. Étrangement, je pense que je peux faire étrange pour certaines personnes quand ils me voient dans tous ces groupes-là, mais ça m'alimente beaucoup.
Ah, mais il y a du stock le fun.
Oh oui, mais là, il y a du stock particulier. Il y a eu un débat en fin de semaine, un débat non officiel, mais clairement avec un haut taux de réaction et des répondants. On est en train de se demander s'il faut permettre aux retraités d'être dans les centres d'achat ou dans les grandes surfaces telles le Costco, le Walmart de ce monde, les épiceries la fin de semaine. C'est rendu un débat de société. Ce n'est pas sérieux dans le sens où, pauvres retraités, vous pouvez être où vous voulez, quand vous voulez, quand même, on est au Québec.
Mais dans le sens où vous pouvez y aller la semaine pendant que nous autres on travaille, venez pas remplir ça à la fin de semaine pendant que nous autres c'est le moment qu'on peut y aller, c'est
des
ça?
Des milliers de réponses,
ah ouais.
Des milliers de réactions. Et moi, je pensais initialement que c'était une farce comme message. Non, l'utilisateur du groupe était très sérieux et s'en est suivi des commentaires qui l'appuyaient.
Ben, je peux
comprendre.
Non, mais dans le sens, je peux comprendre, mais même, je comprends pas pourquoi les personnes âgées elles-mêmes le font pas, tu sais. Eux autres, ils sauvent du monde s'ils le font la semaine. Quoique,
je me suis mis à réfléchir avec ces commentaires-là du genre, ben eux-mêmes ne souhaitent pas y aller la semaine pour pas être dans le brouhaha de la fin de semaine. Point d'interrogation.
Mais on dit ça, là. Des fois, je vais aux Galeries de la Capitale un mardi après-midi puis je me dis, Simonac!
Il y a du monde.
Hey, c'est terrible.
Ça,
moi,
c'est depuis la pandémie, Max.
J'imagine.
Demande à plein de corps de travail, comme des esthéticiennes, des coiffeurs. Ouais. Le avant et l'après la pandémie, là. Avant, tout le monde était comme... Je pourrais juste sur l'heure du lunch. Je pourrais juste en fin de journée. Maintenant, c'est à n'importe quelle heure de journée qu'ils sont capables de booker des rendez-vous.
Je passe dans des magasins des fois pas loin ici de la station, justement, un mercredi après-midi. C'est plein. Des longues files au point où je vire de bord quand j'ai ce que je veux acheter dans les mains puis je vire de bord parce que les files sont trop longues à la caisse.
Là, c'est toute génération confondue. On
oui,
parle
oui.
pas que des retraités.
Oui, il y a des jeunes comme moi, il y a des trentaines, quarantaines, il y a des retraités. Le monde, qu'est-ce qu'ils ont-tu tous des horaires atypiques?
Bien, c'est une question qu'on peut se poser au 88-971-102. Est-ce que depuis la pandémie, votre horaire, c'est comme allégé ou le télétravail? Oui, c'est sûr, à amener ça, mais il y en a beaucoup qui sont retournés travailler. Écoute, ça allait tellement loin dans la publication. C'était vraiment un genre de conversation de société, qu'il y en a qui disaient ramener les primes pour les retraités la semaine, du genre un peu comme la FADOC offre là, le pourcentage de rabais. Là.
Mais juste la semaine.
Juste la semaine pour les encourager à y aller la semaine dans le jour.
Je suis pas contre.
On est-tu vraiment rendu là à se poser cette question-là?
Ben dans le sens, s'ils veulent en profiter, ils le font. Puis après ça, s'ils décident de pas en profiter, ben on saluera la fin de semaine, puis c'est tout.
Mais ce serait une façon beaucoup plus gentille et beaucoup plus respectueuse de les amener à faire leurs achats la semaine versus
pas,
le dimanche.
On fera pas un projet de loi avec ça, là.
Ah, quoique, si avec la CAQ restait au gouvernement plus longtemps, peut-être
non,
que...
c'est ces gens-là qui élisent la CAQ. Ils feront pas ça. Ça serait contre-productif à un brin, j'ai l'impression, Pascal.
En tout cas, positionnez-vous, 88-971-1021. Ben, on fait quoi avec ça? Est-ce qu'on en fait une réelle discussion de société comme j'ai vu passer en fin de semaine? Max, on était à plus de 20 000 répondants et à plus de 20 000 personnes qui se manifestaient sur la chose. C'est plus que les sondages politiques, mon ami.
Mais ça m'intrigue vraiment, ça m'amène au questionnement que j'ai sur l'horaire du monde. Au 88-971-1021, qui est libre un mardi après-midi,
puis
mettons?
Tu fais quoi?
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qui donne une aussi grande flexibilité? Qu'est-ce qui rentre?
Je suis en télétravail sur mon heure de dîner. Je m'arrange souvent pour aller faire des commissions genre au Costco. Puis si bol, c'est toujours plein de boomers. Ça, c'est quelqu'un sur l'heure du dîner.
Fait qu'il prend son
dîner,
heure de lunch. Mais là, une heure, c'est pas beaucoup pour aller au Costco, en tout cas.
Non, vraiment pas. Faut pas oublier qu'il y a des retraités qui ont besoin de voir du monde car isolés. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils vont la fin de semaine.
J'avais
pour voir
pas
plus
ça
de monde.
Point. Très bon point.
Ouais, je peux le comprendre.
Si j'avais à choisir, j'irais peut-être plus au théâtre, mettons, là, pour voir du monde.
Je veux plus voir des jeunes en bas de 25 ans sur le chemin le soir couvre-feu.
OK, parfait.
Moi, même, j'ai la décence de choisir mes heures et je suis un travailleur. Oui, parfois, les gens en général devraient choisir leurs heures. Certaines fois, les personnes âgées doivent être accompagnées par une personne non âgée qui, elle, travaille la semaine. Ça, c'est un point.
Très bon point. Je te dis, regarde, ça arrête plus de rentrer. Continue de le faire. Je pense qu'on a frappé dans une boîte importante, Max. Soit on continue le débat ensemble aujourd'hui ou je vais continuer avec Jeff à ta guise.
Parfait. Hey, merci beaucoup d'avoir été là, Pascal. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Et on se retrouve demain matin.
Ça arrête plus de rentrer.
6h dans Marceau le matin, sinon 10h dans le Point de Max. En attendant, Jeff Fortin s'en vient avec Pascal CV qui va rester bien confortablement assise à sa place et Antonine Iaccarini. Après ça, dès 14h, c'est Gravel dans le retour sans Gravel avec Véro, Audrey et Gab Marino dès 18h. Marceau le soir. Puis après ça, la roue tourne. Salut!
Le Point de Max. Le point de Max. Le Pit Stop. Le duo Gravel-Marceau est de retour maintenant à 7h45 pour traiter des gros